Un générique qui a été composé et joué par Petit Tonnerre. Petit Tonnerre, bonsoir. Nous allons dire ensuite bonsoir à notre ami Globo, Xavier.
Mais oui, mais je ne suis pas dans le podcast ce soir. Moi, je suis là en spectateur.
Et commentateur, troll, etc.
Ouais, voilà.
Et porteur des coups de cœur et coups de gueule. Donc, je te salue, Morgane, qui revient avec nous pour un nouveau podcast. C'est formidable.
Eh oui, quand on commence, on ne peut plus s'arrêter.
Et nous avons même un tout petit nouveau, avec une voix bien connue et suave. Vivien.
Bonsoir.
Vivien Féasson, bonsoir.
Bonsoir.
Tu vois, c'est comme tu es là, on se débrouille pour prononcer correctement ton nom.
C'est très bien. On va voir si ça tient toute la durée du podcast.
C'est pas nous qui nous étions trompés, si ?
Non.
Pas nous.
Non,
jamais.
Nous sommes toujours
maintenant,
parfaits.
Les gens se trompent exprès, donc c'est...
Voilà, bon. Je crois que le dernier c'était Vincent Feuzasson, mais.
Ouais, ça devient unique. Vous verrez, j'ai choisi d'en tirer profit de ce que j'écris.
Mais alors... J'ai choisi un nom d'auteur.
C'est ça.
Dis-moi, Vivien, qui es-tu? Pour ceux qui ne te connaîtraient pas.
Eh bien, je suis quelqu'un de bien déjà. Ensuite, je suis plein de trucs, en fait c'est difficile de résumer. Je suis professeur d'anglais, traducteur pour Sans Détour principalement depuis longtemps sur la gamme Cthulhu. Je suis je suis auteur de jeux aussi, des errants d'Ukiyo et de Perdus sous la pluie, et peut-être si j'arrive à un moment ou un autre à le sortir, de Libreté le prochain.
Un jeu propulsé par l'apocalypse, je crois.
Exactement.
Ou par Apocalypse, comme on nous a corrigé tout à l'heure.
Et je tiens à dire que Vivien, c'est le gentil jeu qui nous a fait découvrir Barney Wheel, Julien.
Absolument.
On peut préciser quand même.
Absolument.
Exactement.
Et d'ailleurs, je dirais même qu'on a remis ça récemment.
Alors ?
Oh bah alors, c'était formidable. Et c'est d'ailleurs ma principale news release depuis le dernier podcast. Une bonne partie de Burning Wheel avec quelques acolytes avec qui on a maintenant l'habitude de jouer. Et c'était vraiment, vraiment sympa.
Et vous vous êtes enfoncé un peu dans le système plus que ce qu'on avait fait la dernière fois, ou pas trop?
Moins, je dirais.
Ah, d'accord. Moins, mais on a eu l'occasion de tester quand même le système de répartie et de, de combat social, de joug d'oratoire.
Ah, oui. Alors, on avait pas une la dernière fois.
Ouais, mais la dernière fois, il me semble qu'on avait testé le système de combat qui est plus...
Plus touffu.
Plus touffu. Ouais. Et ben, le système de répartie marche très bien, je trouve, même si une partie des options me laisse un peu dubitatif.
D'accord. Bon, de toute façon, on aura éventuellement l'occasion de reparler de tout ça.
Oui, Sandra,
oui.
Julien.
Ah,
je m'étonne de ne pas l'avoir.
Sandra a déclaré forfait. Sandra a passé un week-end apparemment formidable au festival de Kaisersberg. Voilà, festival de jeux de rôle, de GN, d'imaginaire, etc.
Voilà, et tellement formidable qu'elle tient plus debout, c'est ça ?
C'est ça. Je crois qu'elle me disait tout à l'heure que l'an dernier, ils avaient eu 180 visiteurs pour faire du jeu de rôle, quelque chose comme ça, en une soirée, je crois. Enfin, elle nous le précisera quand elle reviendra. Et que là, c'était carrément 260, qu'elle n'avait pas su vous donner de la tête, que c'était génial, que tout ça, mais que là, franchement, dodo, quoi.
Terminé.
Nous nous passerons malheureusement de Sandra ce soir. Alors, et vous, quoi de neuf? On a parlé de Burning Wheel. Y a-t-il des annonces, des éléments release que vous voudriez mentionner avant que nous attaquions notre sujet? Alors, pas tous en même temps.
Joker,
ok.
Moi, dans les podcasts que j'ai écoutés avec Vivien, c'est quand il y a un blanc, il faut tout de suite lancer Vivien.
Oui.
Oui, parce que...
Et en plus, il n'y a même pas Sandra pour prendre à ma place.
Eh oui.
Seras-tu notre Sandra ce soir, Vivien ?
Bah écoute, j'ai l'impression que c'est bien parti pour.
Non, on va pas te faire un truc pareil, voyons. Bien.
Vivien.
Bon, alors qui se lance ? Allez, je me lance. Eh bien, ouais. Moi, j'ai lancé mes nouvelles campagnes sur Nantes. J'ai fait ma première partie de Mutant Year Zero. Et c'est un petit système bien sympa. On a un petit groupe bien plein de malades. Et je pense que je vais bien m'amuser.
Tu nous rappelles en deux mots ce que c'est que ce jeu ?
Alors, dans Mutant Year Zero, on joue dans un post-apo. On joue des mutants qui vivent dans une communauté un peu en autarcie et ils s'aperçoivent qu'ils peuvent pas avoir d'enfants. Tout le monde a autour de 25 ans. Ils peuvent pas avoir d'enfants. Ils commencent à plus y avoir de bouffe. Le mec qui les guidait, l'ancien, est plus ou moins malade. Il leur cause plus. Et la tension monte. Il va falloir sortir alors que dehors, il y a plein de dangers. Et puis, et voilà, c'est un système assez moderne. Enfin, pourquoi je dis ça? C'est dire un système moderne, non? C'est un système où, voilà, il va falloir gérer de l'attrition. Il va y avoir des choix moraux à faire. C'est du jeu émergent, c'est-à-dire que les joueurs ont des agendas. Ils vont gagner de l'XP en aidant les gens qu'ils aiment, en emmerdant les gens qu'ils aiment pas. Et à chaque séance, donc le maître du jeu va tirer un élément à un emmerde qui va arriver, et puis ils vont avoir à faire grandir leur colonie, et c'est du jeu émergent, et le système a l'air de bien fonctionner, et c'était très agréable.
C'est un jeu hippie pour MJ paresseux, quoi.
Eh ben, hippie, mais on n'est pas... C'est émergent, mais c'est plus émergent genre Old Trey que émergent genre truc machin world, quoi.
D'accord. Ok, bah écoute...
On reste très proche du jeu classique quand même.
Tu nous feras éventuellement un bilan pour nous en parler un peu plus tard.
À chaque fois, je vous dirai voilà, c'est où on en est, quoi.
Ça marche. Bien. Vivien, jeu de rôle, est-ce que tu as des choses à dire sur ton actu de ce point de vue-là, que ce soit au niveau de ta production ou au niveau de ce à quoi tu joues?
Bah, au niveau de ce à quoi je joue, on a déjà évoqué donc Burning Wheel. Je continue de répandre la bonne parole autant que possible. Après tous ceux que les pavés de 700 pages de règles font fuir. À part ça, j'ai pu refaire un test de mon prochain jeu, Libreté, qui s'est très très bien passé, ma foi.
Ah, ça c'est bien ça.
Et voilà, donc je tente enfin de lancer une mini-campagne, quoi, ce qui est la chose que j'avais pas encore faite jusque-là, vu que j'avais fait que des one-shots.
Xavier, tu souffles dans ton micro.
Non, oui. En fait, je feuilletais Burning Wheel que j'aime à droite et je constate qu'il n'y a que 580 pages dans Burning Wheel.
Oui, mais tu souffles quand même dans ton micro.
Ah, pardon. Non, je croyais que c'était parce que c'était mon bouquin qui faisait fluff fluff, mais non, c'est moi, alors, je suis désolé.
C'est pas grave.
Non, mais c'est l'effet que ça produit à chaque fois qu'on regarde ce jeu, de toute façon.
Je sais pas de quel effet on était en train de parler, mais le souffle de Xavier dans le micro, ça faisait plus pervers psychopathe que...
Shining RPG.
Bah Xavier, quoi.
Mais du coup, voilà, on a coupé la chic à Vivien. Moi, ça m'intéressait. Hein. Il me parlait de sa campagne de libreté.
Absolument. Reprends donc, Vivien.
Après, pour l'instant, je vais pas non plus. Donc, de toute façon, on va faire des comptes rendus réguliers, je pense, sur les ateliers imaginaires. Et puis. Pour parler de ça. Et puis sinon, actuellement, je réfléchis pas mal à la forme que pourrait prendre justement, enfin une nouvelle forme que pourrait prendre l'indépendance, notamment pour intégrer le principe de Kickstarter, qui est délicat à mettre en place, on va dire, avec un simple statut d'auto-entrepreneur, en fait.
Oh là là.
Oh. Oui, j'allais te rebondir dessus, Morgane. Et on en parle ou ça reste dans le domaine du privé?
Oh mais non, bien sûr, on peut en parler. Moi, je suis toujours pour expliquer à quel point l'État nous entube quand même.
Eh bien, je t'en prie, tu as la parole.
Bah, pour ceux qui le savent pas et puis pour ceux qui le savaient déjà, moi, j'ai publié un jeu qui s'appelle Chrysopée sous le statut d'auto-entrepreneur. Donc, je suis officiellement auto-éditeur, voilà. Et donc, il y a une semaine et demie, j'ai eu le plaisir de payer mes impôts et de me rendre compte que l'auto-entreprise prend une cotisation de 13,4% pour ce qui est des ventes de du commerce, en fait, tout simplement. Et que en tant qu'auto-entrepreneur, on n'a pas le droit de... On déclare notre chiffre d'affaires, pas notre bénéfice, et on ne peut pas déduire de la somme qu'on déclare nos frais d'impression, par exemple, ou nos frais d'envoi, voilà, les enveloppes, les timbres et tout ça. Donc du coup, j'ai gagné énormément aux yeux des impôts, donc ils m'ont taxé énormément. J'ai eu très très peur finalement de perdre de l'argent, et au final, il se trouve quand même que sur le dernier tirage, qui est j'ai vendu 62 jeux et quelques, j'ai quand même gagné 100 € sur la vente de 62 livres de jeux, ce qui fait un bénéfice finalement de l'ordre de 8%, ce qui est plutôt bon comparé à ce que d'autres auteurs peuvent gagner chez certains éditeurs, j'imagine. Mais ça fait quand même un peu mal aux fesses quand même. Hein.
Bah, ça fait mal aux fesses parce que c'est pas ce que tu avais prévu.
Non, c'est pas ce que j'avais prévu. Moi, c'est vrai que j'avais calculé le prix de vente de Chrysopée en fonction de la TVA que j'allais reverser à l'État, donc 5,5% et pas 13,4%. Donc, je pourrais très bien... Enfin, on m'a dit, mais t'as qu'à augmenter le prix du jeu, le passer à 25 €, ce qui réglerait mes problèmes. Et au demeurant, la loi sur le prix unique du livre oblige à maintenir le prix du livre pendant 2 ans ou alors de faire une refonte complète pour redéposer un nouveau livre... Voilà. Ouais, okay. Donc, Chrysopée, pour l'instant, de toute façon, le troisième tirage est épuisé. C'est-à-dire que j'ai vendu les derniers la semaine dernière. Donc, avant de réimprimer quoi que ce soit, je me laisse le temps de la réflexion en partenariat avec Vivien pour pouvoir voir si on peut pas trouver un autre statut qui soit peut-être plus intéressant parce que l'auto-entreprise, ça n'est pas fait pour l'activité de vente quand elle te demande d'acheter plein de matos. C'est fait pour la prestation de service, quoi. Voilà, c'est un peu le coup de gueule en avance, hein.
Oui, bah, écoute, très bien, ça nous permet un petit peu de faire le point sur ces situations-là.
C'est un peu l'actualité aussi, je veux dire, ça a fait le buzz.
Ouais. Alors après, c'est vrai que j'ai été très alarmiste quand j'ai fait
sur Facebook et tout.
Ouais, ça fait très nuit debout, c'est vrai. Mais c'est vrai que, enfin voilà, j'ai été quand même très alarmiste sur ce que j'allais gagner. Enfin, moi, j'étais persuadée même qu'avec l'URSSAF, j'allais perdre de l'argent. Et au final, il faut que je t'en perde. C'est-à-dire que j'ai quand même gagné de l'argent, j'ai quand même gagné 8%, ce qui n'est pas immonde.
La question qui va se poser, du coup, c'est est-ce que c'est suffisant pour justifier la somme de travail que représente l'auto-édition de cette manière-là ou pas ?
Non, clairement pas. Enfin, je veux dire, quand tu vends 62 jeux, qu'au final tu gagnes 100 €, que t'as passé 2 ans sur le bouquin, et que tu fais de la com, que tu écris des petits trucs aux gens quand tu leur envoies des livres, que voilà. Je veux dire, comme je disais, c'est pas un retour assez intéressant sur la charge sentimentale et émotionnelle que tu peux porter quand tu as un projet comme ça.
D'accord.
Voilà.
Est-ce que le jeu, je sais que tu l'as sur ta boutique aussi en version numérique, est-ce que tu le laisses en version numérique le temps de ta réflexion ou est-ce que tu suspends l'intégralité ?
Non, pour l'instant, j'ai arrêté les ventes complètement.
D'accord.
Parce que de toute façon, le PDF, il rentre aussi dans le cadre de mon chiffre d'affaires. Donc au final, même s'il n'y a pas de frais d'impression, je suis quand même obligée de déclarer les impôts. Or, pour l'instant, je préfère réfléchir à la modalité de diffusion. Donc, quitte à tout suspendre, je suspends tout parce que j'avais quand même un pack PDF plus livre qui fonctionnait bien, que les gens appréciaient. Et donc, voilà, c'est... Bon, tant pis, c'est tout ou rien.
Ok, bah c'est un point de vue intéressant. D'autant que ça nous fait une transition excellente pour le sujet du jour, puisqu'on va parler de la façon dont on va concevoir les illustrations d'un bouquin, comment on va, dans un livre de jeu de rôle, gérer toute la partie illustration. Et comme tu parlais de la production de livres, eh ben, c'est assez formidable. On a plusieurs modèles qui existent au niveau de l'illustration. On va pouvoir se poser pas mal de questions sur le sujet. Et je pense que pour commencer, j'aimerais bien vous entendre à la fois toi et Vivien sur la façon dont vous avez choisi d'illustrer vos bouquins. Quelle est la démarche que vous avez suivie, si possible de manière relativement brève pour commencer. Et puis ensuite, on va aborder un certain nombre de questions autour de cette idée-là.
Vivien.
Sachant que ouais, si tu as besoin de réflexion encore un petit peu, Vivien, je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant, c'est que tu as un bouquin que tu as publié en auto-édition, donc où tu as géré toi-même l'illustration, et tu en as un autre où tu as travaillé en collaboration avec un éditeur.
Ouais. Ça rend la concision difficile sur le sujet de mon côté.
Bah, tu as deux fois plus de temps.
Ouais, deux fois, c'est comme si ça allait suffire. Non, en fait, pour résumer très simplement, peut-être me positionner par rapport à tout ça, on va dire historiquement, c'est que effectivement, j'ai d'abord commencé par écrire donc les Errants d'Ukiyo tout seul, en me disant, je vais démarcher un illustrateur, je vais lui proposer de vendre le jeu en PDF, et comme ça, voilà, je domine en quelque sorte la chaîne d'un bout à l'autre, et j'embauche entre guillemets, même si c'était pas, il n'était pas question de faire des contrats, mais juste de faire un partenariat. J'avais trouvé un illustrateur et cet illustrateur a disparu.
Qu'est-ce qui lui est arrivé?
Je ne sais pas, il a disparu.
Xavier, c'est toi qui as envoyé des tueurs?
Bien sûr, bien sûr. Parce qu'après le fluff, j'en veux beaucoup aux illustrations. Donc...
C'est ça. Donc il a disparu du jour au lendemain, il a cessé de répondre aux mails, donc je n'ai plus pu mettre la formule vente en PDF en place, parce que je me suis dit, si ça se trouve un jour ou l'autre, il va ressurgir et s'indigner, ou je sais pas, voilà. Et du coup, je les ai mis gratuitement. Et ensuite, seulement, j'ai été contacté par un éditeur qui, lui, m'a proposé effectivement de me mettre en collaboration avec un illustrateur. Et voilà, j'ai travaillé avec Lian. Je ne veux pas me planter sur le nom de famille. Je crois que c'est Liebi, si je ne me trompe pas, là-dessus. Par contre, ensuite, donc pour Perdu sous la pluie, j'ai opté pour un choix encore plus radical qui a été les illustrations libres de droit. D'un illustre auteur mort il y a fort fort longtemps qui avait fait des illustrations en fait de livres pour enfants, une sorte de gravure que j'ai intégrée au jeu. Et pour le prochain jeu, Libreté, a priori, je repars sur une formule plus entre guillemets professionnelle, c'est-à-dire la recherche à nouveau d'un illustrateur et cette fois peut-être proposition de contrat en bonne et due forme, ce genre de choses.
Petit tonnerre, toi, tu as publié des romans en numérique, puis tu en as imprimé quelques-uns, et tu as choisi des couvertures qui sont des couvertures illustrées qui sont plutôt pas mal, d'ailleurs, de mon goût, quoi. Comment t'as choisi tes couvertures?
J'ai fait appel à un illustrateur. Alors bon, là, pour les premières, un illustrateur en particulier, un autre pour le prochain. Après comment, je sais pas, je connais plutôt pas mal d'illustrateurs pour le coup, enfin au moins dans le milieu de l'imaginaire, donc c'est
ah ça m'intéresse
presque, que ça revient presque à faire son petit marché.
Ça marche.
Parce qu'il y a quand même énormément de d'illustrateurs très 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 talentueux dans le milieu. Après, il y a pas mal de sites qui centralisent justement des illustrateurs qui se regroupent. Donc c'est plutôt cool pour trouver ce qu'on a envie. Voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre là.
Non, mais on va revenir. ça m'étonne pas, mais on va.
Je pense que Morgane a des choses plus intéressantes à dire que moi.
Ceci dit, après, dans un premier temps, ça peut être aussi de mentionner le mode de, enfin le contrat ou le mode de négociation de chacun. Moi, ça c'était un peu inclus dans mon truc, parce que de toute façon, quand c'est un éditeur, c'est pas moi qui s'en occupe. Quand c'est libre de droit, je m'en occupe pas. Et pour le futur, c'est encore le futur, donc j'ai rien à dire là. Par contre, vous deux avez peut-être des trucs à dire sur ce point-là, quoi.
En l'occurrence, pour le premier illustrateur, donc celui de mon diptyque de Space Up, qui est le premier, en fait, les premiers livres que j'ai publiés en auto-édition, on s'est plus ou moins arrangé, on va dire. C'est-à-dire qu'en fait, je lui ai trouvé un travail, donc. Il a accepté de me faire des couvertures, ce qui est en l'occurrence pas désagréable. Allô, est-ce que je suis toujours là?
Tu es toujours là.
Oui. Je sais pas,
on t'écoute religieusement.
Ça coupe à moitié. Non, mais voilà. Et sinon, le suivant pour Manhattan, par contre, je l'ai payé. Enfin, j'ai réinvesti en fait les droits d'auteur et le revenu que j'avais touché sur les premiers pour payer un illustrateur. Voilà.
Ça marche. Alors Morgane, sur la route de Chrysopée, parce que l'illustration prend une grande part dans ton travail.
Ah oui, effectivement. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Alors, moi, en fait, j'ai travaillé avec une amie qui est illustratrice et animatrice, c'est-à-dire qu'elle fait des films d'animation, et elle est passée par l'école des Gobelins, et donc je la connaissais d'abord en dehors du cercle de l'illustration. J'aimais beaucoup ce qu'elle faisait. Et c'est vrai que quand j'ai écrit Chrysopée, je me suis dit, il faut que ça soit elle qui illustre, parce que je savais qu'elle avait la sensibilité que moi, je rêvais de retrouver dans ce livre. Donc, on s'est mis d'accord sur le fait que pour les bénéfices de chaque tirage, on ferait moitié-moitié. parce que j'estimais qu'avec son niveau de tout simplement son niveau professionnel, elle méritait au moins de toucher 50%. Et comme tu l'as dit, Julien, l'illustration est fondamentale dans ce livre, parce que comme il s'agit d'un carnet de voyage, moi j'envisage pas de carnet de voyage sans croquis. Et donc je pense qu'effectivement, pour saisir l'ambiance de l'univers, le travail de Marion fait, je sais pas, au moins 50% du travail. Voilà, donc du coup, on s'était mis d'accord. Il fallait que, moi, je savais très précisément ce que je voulais, de l'aquarelle et de la couleur. Ça a d'ailleurs influé sur les choix d'impression, du coup. Et puis après, on a travaillé ensemble. Elle m'a proposé des esquisses, mais en fait, c'est passé tout seul, quoi. Les trois premiers dessins qu'elle m'a montrés, moi, je me suis dit banco. J'ai versé une petite larme d'émotion, et puis, du coup, on est parti. Et elle a réalisé une bonne trentaine d'illustrations, dont certaines pleines pages. Pour le livre, voilà. Et donc, le contrat, c'était 50% pour elle, 50% pour moi.
Ok.
Voilà.
Juste une question, quand tu dis que c'est une amie, c'est que tu l'avais rencontrée avant, tu l'as pas...
Ah oui, je l'ai rencontrée, voilà, je l'ai rencontrée complètement en dehors, pour tout te dire, je l'ai rencontrée quand on faisait de la danse orientale, voilà, comme ça tu sais tout.
Okay.
Et puis en fait, je savais qu'elle était illustratrice, et quand je me suis lancée, je me suis dit, tiens, je connais Marion, j'aime bien ce qu'elle fait, du coup je suis allée la voir, comme ça, dans un marché de l'histoire de Pontoise, et je lui ai dit, au fait Marion, si je faisais du jeu de rôle, ça t'intéresserait à l'illustrer? Elle a dit, bah pourquoi pas. Et donc, je lui ai envoyé les premières notes et elle a fait « c'est cool ».
Donc, c'est un projet bâti à deux de ce point de vue-là.
Tout à fait. Oui, moi, je me suis… Elle s'est évidemment inspirée des textes que je lui avais envoyés. Mais quand elle a commencé à m'envoyer les esquisses préparatoires, les projets en devenir, que j'ai vu les couleurs qu'elle utilisait, parce que j'essaye de retrouver le timing en même temps que j'explique, mais j'ai un peu de mal. Je pense que elle a dû voir les textes des trois premiers mois. Elle a commencé à travailler dessus. Et puis, au final, notre collaboration s'est poursuivie pendant un an après, parce qu'elle est partie au Canada pour travailler, donc elle était débordée là-bas. Donc au final, elle a eu peu de temps pour travailler pour moi, mais du coup, moi, avec le peu qu'elle m'avait fourni, j'ai eu beaucoup de matière pour écrire. Donc du coup, les illustrations et le texte fonctionnent en écho, parce que c'est aussi comme ça qu'on a travaillé avec Marion.
Mmh. Okay.
Voilà, on s'est influencés l'une l'autre.
Ouais, c'est intéressant ça. Alors, on a plusieurs choses qu'on avait évoquées, notamment avec Vivien, à propos de ce podcast. Je vous propose, on a un sujet sur on peut parler de la couverture, comment on choisit une couverture et les implications que ça a, des illustrations intérieures et de la place de l'illustrateur par rapport à l'auteur. C'est un petit peu les trois axes qu'on a pour ce soir. Est-ce qu'il y a...
Moi, j'en aurais même un autre à rajouter après.
Eh bien, très bien. Est-ce qu'il y en a un parmi ces trois-là déjà par lequel vous voudriez commencer?
Est-ce qu'on commence par la couverture?
Oui, ben, commençons par la couverture. Alors,
première page,
couverture du jeu. Déjà, on va avoir une démarche très différente, je pense, entre les bouquins qui utilisent des illustrateurs et des bouquins qui utilisent des illustrations du domaine public. Comment est-ce que... je dis, il devrait y avoir une différence. En fait, j'en sais rien. Y a-t-il une différence? C'est ça ma question déjà. C'est-à-dire que, est-ce que, en tant qu'auteur, quand vous choisissez la couverture de votre jeu, vous demandez à un illustrateur de vous faire une couverture et ensuite vous adoptez en fonction de sa créativité à lui qui complète la vôtre? Ou est-ce que vous allez, quand vous travaillez avec des illustrations du domaine public, partir avec quelque chose de très précis en tête ou vous laisser guider par ce que vous trouvez? C'est quoi votre démarche?
Ben, alors, moi, déjà, je vais mettre tout ce que je vais dire ensuite sur les idées, on va dire, artistiques, sous le fait que, n'étant pas moi-même un dessinateur, quelque part, il me manque quelque chose pour décider vraiment. C'est-à-dire que, à la base, on peut me proposer n'importe quoi. Enfin, je considère que visuellement, il y a des gens plus doués que moi et donc qui peuvent avoir de meilleures idées que moi là-dessus. Après, que ce soit des illustrations libres de droit ou pas, honnêtement, je pense pas que ça change quelque chose véritablement. C'est, à la limite, il peut y avoir le concept du jeu, c'est-à-dire le concept du jeu comme objet, qui peut avoir une influence sur l'illustration, dans le sens où tous les objets ne nécessitent pas forcément une belle illustration en couverture, quoi. On peut imaginer une couverture assez sobre, finalement, avec juste le titre. Alors après, ça demanderait sans doute des effets de police de caractère ou au moins de graphisme sur le titre lui-même. Et là, je serais bien incapable de dire exactement comment je voudrais ça. Mais il peut y avoir ça. Sinon, j'aurais tendance à dire que pour si j'ai des illustrations, j'aurais tendance à mettre celle qui me semble la plus jolie ou la plus iconique, ou je sais pas, pour les errants d'Ukiyo, je voulais celle qui enfin j'aurais voulu celle la plus badass, qui en jetait le plus, qui donnait envie de jouer au jeu, quoi, mais
ok,
voilà.
Je sais pas, je pense qu'il faut, enfin, tu peux pas décorréler l'illustration de la couverture avec le format que tu choisis et le mode d'impression par lequel tu passes, parce que passer par par un illustrateur pour te faire une couverture, oui, mais si derrière tu passes par Lulu ou par Amazon qui t'impose des chartes graphiques de couverture bien précises, t'as pas toute latitude non plus pour travailler.
Ouais.
Bah vas-y.
Je sais pas, je en termes
l'air,
de.
Tu
de...
souffles dans ton micro, tu es en train de lire Burning Wheel ou quoi?
Non, j'étais en train de repenser à Batman versus Superman et du coup je me paye une petite déprime, mais j'ai envie de me piquer de l'héroïne et tout. Non, c'est juste par rapport aux charmes graphiques imposés par Amazon et par les distributeurs. Elles sont pas, en général, il y a le format et la résolution qui sont imposés, mais c'est à peu près tout, quoi. Il n'y a pas de directive particulière, autrement.
Non, mais il t'impose pas une collection, c'est ça que je veux. Quoique certains modes de diffusion à la demande, moi j'ai beaucoup épluché le web avant de sortir Chrysopée, certains éditeurs à la demande t'imposent en fonction de la collection, ils ont différents types en fonction de ce que tu veux, et selon la collection que tu choisis, genre manga, découverte, roman, des choses comme ça, t'as quand même des paramètres assez précis sur le format, sur les polices proposées, sur les couleurs à disposition, et
charte graphique dans certains cas, effectivement.
Alors, je voudrais bien savoir qu'est-ce qu'on entend par éditeur à la demande, parce que imprimeur à la demande, ok.
Oui, pardon, non, imprimeur à la demande, c'est ma langue à fourcher.
Elle voit des éditeurs partout.
Je sais pas, ni.
Commence pas, Vivien, ça suffit maintenant.
Bon, après, je ne bosse qu'avec CreateSpace et Lulu, mais. Je me rappelle pas qu'il y ait eu des choses d'imposer, à part que le code barre doit être en bas à droite, mais à part ça.
Ah ben, moi pour Create
Space. Ouais, c'est ça, et le code barre aussi.
Oui. Bah, ceci dit, moi pour Create Space, j'avoue que j'ai été plutôt content. Hein. J'avais plusieurs propositions de maquettes. Moi qui, comme je disais, j'ai quand même un petit problème à ce niveau-là. Et je considère que je suis beaucoup plus. Comment dire, expérimenté sur le texte, j'étais bien content qu'on me guide un peu justement là-dessus, parce que j'aurais eu du mal avec des illustrateurs, en plus sans illustrateur pour m'aiguiller.
Ah, c'est vrai que la maquette fournie par l'imprimeur à la demande, elle te permet d'avoir une couverture qui fait pro, sans, enfin voilà, qui est quand même bien agencée, qui est assez fluide, sans forcément passer. Alors, 4 heures, quoi.
Cela dit, via Lulu et CreateSpace, il y a des. Enfin, il suffit d'avoir, hein, une fois que le livre il est prêt, entre guillemets, il suffit de télécharger un template, de le balancer à l'illustrateur, et puis après, c'est merde, quoi. Enfin,
Oui, c'est vrai. Enfin, sauf quand CreateSpace t'imprime la mauvaise couverture sur ton bouquin, pas vrai, Vivien?
Ah.
C'était quoi? Comment qu'est devenu Perdu sous la pluie? Je me souviens plus. Un truc sur Minecraft, non?
C'est le guide de Minecraft, en fait.
Oui, c'est ça.
Et même le format avait été changé, du coup tout à l'intérieur était découpé, enfin c'était assez...
C'est un grand traumatisme.
Ouais, non ça va, je l'ai renvoyé. C'est dommage, j'aurais bien aimé le garder en souvenir, mais...
Ouais, mais du coup il y a pas mal de considérations sur la couverture, mais c'est important la couverture d'un jeu?
Ouais.
Oh, bah, carrément.
Enfin, moi je trouve que c'est super important parce que c'est pas forcément... Ça traduit pas forcément la qualité du jeu. Tu peux avoir des jeux excellents avec des couvertures qui sont pas aguicheuses comme ça, et puis tu peux avoir des couvertures magnifiques et le contenu est tout pourri. Mais c'est quand même le premier contact que tu as avec le livre, avec le jeu, parce qu'en fonction du style de la couverture, ça va te donner une idée vraie ou fausse d'ailleurs de ce qu'il y a dedans. Et ensuite, c'est aussi ton premier contact avec l'objet livre. Enfin, j'ai déjà sorti l'anecdote quand je parlais de Chrysopée sur la cellule, mais quand j'étais à Octogone, donc le festival de jeux de rôle à Lyon, Il se trouve que j'ai rencontré un autre auteur de jeu, Lionel Jeanneret, qui est venu, qui a regardé un peu le stand parce qu'il connaît un peu les ateliers imaginaires. Il a posé sa main sur mon bouquin qui a une couverture, comment ils disent, soft touch.
Soft touch.
Donc elle est un peu peau de pêche comme ça. Il a posé sa main sur le bouquin, il a fait oh. Tiens, ça c'est intéressant. Et du coup, il a ouvert le livre juste parce que il avait une texture qui n'était pas habituelle. Il y a des gens hein, comme ça qui sont sensibles.
Ouais, mais c'est pas une illustration.
Non, mais ça fait partie de la couverture. Et mine de rien, j'ai été obligée de concevoir l'illustration de la couverture en fonction de cet effet soft touch parce que il influait sur les couleurs, le rendu de la couleur. Si j'avais pris une couverture brillante, j'aurais été obligée de changer un peu les couleurs de la couverture et l'illustration, parce que elle aurait été verdâtre, sinon elle n'aurait pas été beau.
Mais ça, c'est ton imprimeur qui te l'a dit, c'est ça?
Oui, en fait, j'ai eu le service impression au téléphone et ils m'ont dit, vous savez, si vous mettez un vernis brillant, ça va faire tout vert.
D'accord.
Et ils m'ont envoyé un test, hein, ils m'ont pas menti comme ça, ils m'ont montré effectivement ça aurait fait verdâtre bizarre. Donc j'aurais été obligée de changer d'illustration, c'est con. Hein.
On a Jemri sur le chat qui nous dit, donc Jérémy Rueff, éditeur chez les Écuries de Gers, qui nous dit que...
Salut Jérémy.
Salut, ouais. La couverture, c'est 50% d'intention d'achat sur un bouquin. Donc je vais
ouais, ça, peut-être... Moi, ça m'étonne pas. Hein.
Je vais peut-être reformuler ma question un tout petit peu. Alors la couverture, visiblement, c'est très important pour vendre son bouquin. Est-ce que c'est important pour le jeu lui-même?
Ça dépend.
Moi,
je pense que pour l'auteur, c'est important aussi.
Ouais. Est-ce que ça va vous influencer sur la façon dont vous jouez? Et notamment, je m'adresse un peu à Xavier, là, qui fait notre spectateur et qui va nous servir un petit peu de micro-trottoir, du coup, de joueur et de joueur pas intéressé par la problématique d'auteur de création de jeu, mais par contre, comme utilisateur des bouquins.
Alors, je vais sans doute, enfin, je sais pas, je pense que je vais faire mon original une fois de plus. Effectivement, c'est ce qui attire l'œil. Je veux dire, c'est des considérations marketing et si on veut vendre, on est dans un monde où, enfin, voilà, on voit bien aussi avec certains éditeurs qui font une grosse part de leur beurre sur. Autour de la qualité des illustrations du bouquin, etc. Mais moi, je fais partie, enfin, je veux dire, je rapprocherais ça du jeu vidéo, c'est-à-dire qu'un beau jeu vidéo, c'est peut-être ce qui va t'attirer l'œil. Mais quand tu as joué 500 heures à ce jeu-là, tu te rends même plus compte qu'il est beau, quoi. Ce qui te fait rester sur un jeu, c'est avant tout le gameplay et l'expérience de jeu qu'il te propose. Et donc, pour moi, cette discussion, c'est pas une discussion de rôliste, quoi. C'est une discussion de marketing et de commerciaux. Et donc, voilà, je vous écoute, je suis content de participer avec vous, mais j'ai eu du mal à me projeter dans le thème en préparation et je suis pas sûr d'être dedans encore, quoi.
T'inquiète.
Maintenant, je suis particulièrement pas sensible aux propositions esthétiques, comme dirait Thomas Minier, donc ça vient peut-être de moi, quoi. Voilà, c'était mon cœur.
Ouais, ouais, bah, je te remercie parce que c'est intéressant d'avoir ce genre de d'avis. Il est évident que quand tu... Alors, la situation a peut-être changé, mais je ne suis pas sûr qu'elle ait beaucoup changé, mais avec le mode de diffusion des jeux de rôle aujourd'hui. Autrefois, quand on allait dans les magasins de jeux de rôle, on avait les bouquins disposés, on avait la couverture, ça existe encore. Hein. Y en a moins, c'est moins fourni, mais il y en a encore. Et on avait toutes les couvertures, et en fonction de si la couverture attirait l'œil, on allait feuilleter le jeu. En général, c'était effectivement le premier point d'accroche. On dit d'ailleurs assez souvent, et vous allez me dire ce que vous en pensez après, qu'il suffit de rajouter un dragon ou une femme nue pour multiplier tes ventes assez rapidement. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de ventes qui se font soit par des financements participatifs, si on prend vraiment la sortie de beaucoup de jeux de rôle cette année, pour lesquels on n'a même pas forcément la couverture définitive au moment où le financement est fait, et on ne peut pas feuilleter le bouquin, etc. Donc, je me demande si ça change les choses. Alors, déjà, est-ce qu'effectivement, il y a des choses qui vont marcher pour vendre un jeu, d'après vous, ou c'est une vieille légende, ça?
Je sais pas, j'ai pas mis de dragon sur ma couverture, je peux pas te dire. Alors la femme nue, n'en parlons même pas, mais non, en fait, je peux pas te dire. Là, effectivement, je pense que c'est quelqu'un comme Jérémy qui pourrait nous répondre, parce que moi, j'ai publié un jeu, donc on peut pas faire des stats avec un exemplaire.
Ouais, ce qu'on peut soulever, c'est l'idée que globalement, il y a eu une espèce d'hyper développement de la qualité des couvertures de jeux de rôle, au point que finalement, peut-être que maintenant, c'est les couvertures qui se démarquent le plus.
Mais sont celles qui prennent le contre-pied.
Ouais, parce que je regarde, par exemple, là, j'étais en train de jeter un œil à Écrime. Alors, même s'il y a toujours des illustrations magnifiques, etc., qui sont mises en avant, j'ai l'impression que, quelque part, la couverture, elle, joue plutôt la carte de la sobriété. Je pense aussi à Burning Wheel, l'édition Gold, qui est assez unanimement saluée, hein. Au moins pour, voilà, pour la qualité graphique, à défaut, voilà, après, on pense qu'on veut du contenu, mais qui aussi, pareil, quoi, pas de grosses illustrations sur la couverture, etc., quoi.
Mais est-ce que c'est pas aussi une mode globale, notamment marketing, parce que sais pas, à une époque il y avait voilà la mode de ces, enfin les jeux de rôle des années 90, pour la grande majorité on les reconnaît assez bien avec leurs illustrations bien typées. Je pense qu'en fait on pourrait faire une évolution de la charte graphique des couvertures de jeux de rôle sur les 20 dernières années sans aucun souci. Et je pense que peut-être avec la communication auquel on est habitué, communication très sobre comme a fait Apple par exemple, je pense qu'effectivement on s'inspire aussi du champ marketing dans lequel on baigne.
Oui, non, c'est ça, parce que si on regarde les années 90, moi ça m'évoque tout de suite Néphilim avec ses symboles un peu cabalistiques, ouais. Et tout ça, ou Vampire avec sa rose sur un cimetière, pas du tout surchargé en fait en termes d'action, d'illustration.
Même la couverture de Hurlement. Hein.
Et Hurlement, c'est déjà un petit peu différent en soi finalement. Mais effectivement, ça serait sans doute facile, enfin intéressant à étudier, quoi. Et on se démarque comme on peut. Il y a un moment où la surenchère ne permet plus de se démarquer. Il faut aller carrément à contre-courant, quoi.
Ouais. Ouais, ouais. J'ai l'impression qu'on a un peu dépassé cet aspect-là, mais c'est vrai que il y a quand même un certain nombre de comment dire. Il y a quand même un certain nombre de jeux qui restent dans des surcharges graphiques pour leur communication aujourd'hui, quoi. Ou qui basent d'ailleurs toute la communication du jeu sur l'aspect graphique. On peut en citer deux assez récents, et c'est pas seulement sur la couverture, et à moins que vous ayez encore des choses à dire sur la couverture, on va peut-être passer à l'intérieur. Je peux citer Degenesis, qui a fait vraiment une grosse communication autour de ces illustrations intérieures. Donc un jeu de rôle post-apocalyptique, traditionnel, j'allais dire un de plus, mais bon, ça c'est mon opinion personnelle, mais apparemment très très beau. Et je crois que le dernier qui fait beaucoup parler de lui niveau illustration, c'est la traduction d'un jeu suédois qui s'appelle...
Simbarum,
voilà, c'est ça.
Tu l'aurais pas dit, je l'aurais donné. Ouais, c'est vrai que c'est assez extraordinaire comme illustration. Alors pour tout te dire, ça ne m'a pas donné envie de jouer au jeu. Ouais. Par contre, les illustrations sont superbes. Ça m'a pas donné, enfin, j'ai pas accroché plus que ça en me disant, oh, ça a l'air d'être un jeu génial. Je me suis arrêtée en me disant, la vache, l'illustrateur, quel talent. Comme quoi.
Et donc, tu vois, moi, dans Mutant Year Zero, j'aime beaucoup les dessins qu'ils font et l'ambiance qu'ils mettent en illustration à l'intérieur. Et pourtant, je suis rarement, enfin, non, je vais pas dire que je suis pas sensible à ça parce que je suis en train de chercher le, tu sais, on y viendra peut-être, je prends peut-être de l'avance, les artistes et les auteurs du milieu du jeu de rôle qui m'ont marqué et qui gardent une empreinte forte dans mon imaginaire.
Ah, bah, tu en as quelques-uns qui sont vraiment extrêmement lié au succès de certaines gammes. On peut parler de Darkson, sa charte graphique, eh oui. L'univers pour Donjons et Dragons, désertique, ancien, complètement destroy, etc. Bien à contre-pied de l'heroic fantasy de base, qui était porté quand même par plusieurs illustrateurs, dont Brom.
Eh oui. Ouais, bon, massivement Brom d'ailleurs.
Et Baxa aussi, enfin quelques autres.
Lost aussi, la première édition.
Oui, bah c'est Brom aussi, oui.
C'est Frazetta.
C'est Frazetta.
Ah, Frazetta, oui, je comprends,
Frazetta,
pardon.
Frazetta, il n'a pas écrit pour Bloodlust, tu vois.
Non, mais c'est quand même, ça a participé, on va dire, à la fois à l'ambiance véhiculée par le jeu et, j'imagine, aux ventes. Enfin, c'est ce qui le détachait largement de la production moyenne de l'époque.
C'est sûr que dans l'univers de Heroic Fantasy, Frazetta, il est un peu tournable, quoi. Mais moi, par exemple, j'ai sans doute découvert Frazetta parce que je faisais du jeu de rôle, mais j'ai pas découvert Frazetta en lisant des bouquins de jeu de rôle, tu vois.
Non, je comprends pas la nuance.
Par exemple, si je te dis Jim Holloway ou Russ Nicholson, même Larry Elmore, moi, c'est des mecs, je les ai vus que dans des bouquins de jeux de rôle, tu vois. Alors après, beaucoup plus, enfin, je les ai découverts en lisant les règles. Je savais même pas comment ils s'appelaient, ces gars-là, que j'avais déjà leurs univers graphiques en tête. On peut parler de Brom aussi, c'est pareil. Par contre, Frazetta, voilà,
il existe en dehors de ça, quoi.
Voilà, et dès les, parce que je suis un fan de Conan de la première heure et que quand t'aimes Conan, quand t'aimes l'heroic fantasy, tu tombes sur Frazetta, quoi.
C'est comme si je te disais John O pour le Seigneur des Anneaux ou les trucs comme ça, quoi. Tu peux les retrouver dans certains jeux, mais là, globalement, ils sont au-delà de ça, quoi.
Oui. Voilà. Okay.
Alors que, enfin, voilà, justement, moi, je me posais la question en me disant, putain, mais je vais me faire chier pendant ce podcast, j'ai rien à dire. Et non, en fait, je suis en train de chercher, toute une paire d'artistes qui ont sans doute, enfin, pour des vieux rôlistes, en tout cas, sans doute pris une grosse part dans leur univers et dans leur imaginaire, et qui pourtant sont sans doute pas aussi connus que les auteurs de jeux, alors que je pense effectivement en discutant avec vous que, en tout cas sur moi, ils ont eu une influence. Ils m'ont vraiment impressionné, quoi. Pendant, même aujourd'hui, d'ailleurs, j'allais dire pendant très longtemps, mais même aujourd'hui.
Ouais.
Voilà. Peut-être des mecs que vous connaissez pas d'ailleurs. Bon, Larry Elmore, il est connu, mais.
Oui, ça m'évoque Dragonlance, c'est ça, notamment.
Ouais, voilà, c'est ça.
C'est génial, ces illustrations.
Jim Holloway, c'est toutes les illustrations de donjons un peu comiques, et c'est lui qui a illustré Paranoia.
Et il y a celui de Loup Solitaire, comment il s'appelle? Non, vous voyez pas qu'il est, il
oui,
l'avait.
Si, je l'adore aussi. Ouais, je sais pas qui c'est. Il y a Russ Nicholson qui a aussi
illustré. C'est pas Russ Nicholson qu'on a fait quelques-unes ou?
Bah, il a fait Sorcellerie, mais je sais pas s'il a fait Loup Solitaire.
Alors. Gary Schalk, voilà.
Ouais, Gary Schalk, voilà, pareil.
Et justement, aller chercher pour la version jeu de rôle parce que le mec était iconique des livres dont vous êtes héros de l'époque, quoi.
Ouais.
C'est moi, il y a un truc en particulier qui m'intéresse au sujet de l'illustration intérieure du bouquin. C'est alors, il y a plusieurs choses. Il y a le côté technique, c'est-à-dire quelle est, à votre avis, la proportion d'illustration qu'il faut avoir à l'intérieur d'un bouquin de jeu de rôle pour qu'il soit lisible. C'est-à-dire que est-ce qu'il faut des illustrations sur chaque page ou pas, globalement, hein. Et la deuxième chose qui m'intéresse encore plus, c'est de savoir à quel point l'illustration d'un jeu va influencer la façon dont on y joue. Parce que si on reprend un homme qu'on n'a pas cité depuis un moment, alors ce n'est ni Johan Sipion ni Munier, c'est monsieur Romaric Briand. Quand on avait discuté avec lui, bah oui, forcément. Hein.
Tu lis dans ma tête, c'est impressionnant.
Quand on a discuté avec lui, en particulier autour de sa conférence aux Utopiales sur le Maelstrom, ce que j'ai retenu peut-être de plus marquant de cette discussion-là, c'est le fait que l'illustration d'un bouquin faisait partie des outils dont un auteur dispose pour orienter ce qu'il appelle les propositions que les joueurs vont faire au cours de la partie. En gros, influencer la façon dont le jeu va se jouer et le type de alors comment il dit, contenu fictionnel malléable que ça va produire. Voilà. Bref, le type de fiction qui vont être présentes dans le jeu, voilà, histoire de ne pas utiliser uniquement le vocabulaire de Romaric et de chier un peu, est-ce que ça va être vraiment influencé par les illustrations du jeu? Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je suis persuadée que oui, ne serait-ce qu'en vous écoutant, quand vous pensez à un jeu, vous pensez aux illustrations qui vont avec. Il y a 5 minutes, vous avez « mais oui, celui qui a illustré Paranoia », et tout le monde « ah mais oui, mais je vois ». On ne se souvient pas de son nom, mais on voit. Et le jeu est indissociable d'une certaine forme de mise en page, donc d'une certaine forme d'illustration.
Je voudrais intervenir et revenir du coup au livre dont vous êtes le héros, parce que quand j'y jouais, quand j'étais petit, que je n'avais pas de poils au menton, etc. Pardon. Non, là, je toussais vraiment. Les illustrations, elles influençaient énormément ma manière de jouer. Parce que quand on te dit, tu te retrouves dans une auberge, l'aubergiste accueille un peu de chemin, et puis juste à côté, tu as une illustration de l'aubergiste en contre-plongée avec un visage sadique, des pustules, et puis un gros hachoir dans la main droite. Bon, tu te dis clairement que tu vas pas t'attarder
C'est
dans le
sympa
bordel,
l'accueil
quoi.
ici.
Non, mais
Ah,
voilà.
elles étaient typées, hein, les illustrations de livres dont vous êtes le héros, si je me souviens bien. Hein.
Et du coup, voilà, là en l'occurrence, pour le jeu de rôle, je pense pas tant que ça. En revanche, pour le livre dont vous êtes le héros, je sais pas si ça peut être considéré comme jeu de rôle, mais oui, moi, ça m'influençait énormément.
Bah, moi, j'ai envie de dire, pour le jeu de rôle, il y a un truc qui est très simple, c'est que le meneur de jeu. Bon, déjà, le meneur de jeu généralement est inspiré par la couverture et les illustrations, mais après il lit le bouquin, il va le lire une fois, deux fois, trois fois. Je parle du jeu classique, hein, encore une fois,
Oui,
pas de
bien
procès
sûr.
d'intention là-dessus. Il va le lire autant de fois qu'il le faut pour qu'il comprenne les règles. Ensuite, il va étudier le scénario, machin. Il va arriver face à une table et les joueurs vont globalement vouloir en 5 minutes avoir la quintessence du jeu. Et pour ça, les illustrations ont un pouvoir largement supérieur au texte, quoi.
D'ailleurs, ça arrive assez souvent où le maître du jeu te décrit un lieu, il te dit bah voilà, là vous arrivez à tel endroit, et puis au final il ouvre le bouquin et il te montre des illustrations sur 2 pages qui représentent le lieu, te disant bah voilà, vous arrivez là. Enfin, c'est une méthode de masterisation qui est possible. Enfin, excusez-moi d'y revenir encore, mais sur la partie de Ambre auquel on joue, régulièrement, le MJ ouvre le jeu et on a les illustrations de Florence Magnien, voilà, pour nous aider éventuellement, parce qu'il est
Alors,
clair qu'elles ont
il y a aussi
influencé le
les
MJ.
illustrations intérieures, hein, quand même.
Oui, les illustrations intérieures, mais enfin
Et
aussi,
elles sont bien
enfin,
moches dans Ombre,
ah
si
bah
je me
carrément,
souviens.
ouais,
Ouais,
elles sont, c'est impressionnant. Enfin, j'ai jamais vu, si, à part dans les bouquins de Warhammer 40 000, j'ai jamais vu une telle dichotomie. T'as des illustrations qui sont superbes, voilà, t'as des illustrations, tu fais oh la vache, c'est classe et tout, et puis la page d'après, t'as une illustration, tu fais mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi.
d'ailleurs, ça m'évoque l'idée que, en fait, des fois, une belle couverture, presque, et éventuellement une ou deux illustrations, ça peut suffire, finalement, si la maquette est relativement bien faite, à vendre, on va dire, l'esthétique d'un jeu, quoi. Il n'y a pas forcément besoin de truffer d'illustrations pour, justement, je reviens sur la question que tu posais, Julien, au début.
Oui.
Il n'y a pas forcément besoin d'énormément d'illustrations, en fait, pour.
Finalement, si tu vois 100, il y a quoi? Il y a 6 illustrations par livre à peu près.
Alors après, est-ce qu'on peut considérer que 100 c'est un beau livre?
Ah, je croyais que t'allais
Non,
dire,
mais
est-ce
c'est
qu'on
un
peut
parti.
considérer que 100 c'est du jeu de rôle?
Non, non.
Ah, il éclatait de rire, Lydia.
Non,
Non, mais
c'est un parti pris, c'est ça que je veux dire. C'est que le parti pris, c'était de limiter au maximum les illustrations, même s'il y en a quelques-unes quand même.
c'est
Est-ce
ça.
que ça suffit?
Ouais,
Est-ce que
moi,
ça
c'est marrant.
suffit à bien jouer à Sens?
C'est marrant, j'irais complètement à contresens de ce que vous dites
Ben, je t'en prie.
pour
Tu aimes
les
les illustrations
illustrations.
intérieures d'Ambre, c'est ça?
Non, 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 c'est pas la question, mais c'est que je vais le faire à travers une anecdote parce que ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Dans ma dernière partie, donc pour le hack d'Apocalypse que je teste avec des joueurs, donc évidemment c'est un hack et je suis en train de le bidouiller, donc il n'y a pas d'illustration, il n'y a pas de livre, il n'y a rien du tout. Donc jusqu'à présent, donc ça fait quand même déjà 6 ou 7 parties, je sais plus qu'on joue. Jusqu'à présent, je me suis contenté de faire des descriptions les plus parlantes possibles. Donc j'ai aucun support visuel sur lequel m'appuyer, même pas pour les tronches des persos, donc c'est vraiment tout à l'imagination. Et j'ai fait une petite entorse à cette règle à la dernière partie, où, pour que mes joueurs puissent visualiser un petit peu le terrain dans lequel ils se trouvaient. Et pendant toute la partie après, ils n'ont fait mais que de la merde. C'est bizarrement. Ils étaient sur une planète, et puis je sais pas quelle idée ils s'en sont faites, mais quand je leur ai fait un plan plus ou moins, ah ouais, mais c'est quand même, en fait, c'est un environnement qui est plus ou moins hostile. Oui. Alors, c'était pas très clair dans leur idée. Mais une fois que j'aurais fait ce plan et qu'ils ont établi un plan d'attaque plus ou moins par rapport à une situation, ils ont fait que de la merde, quoi. Ils ont fait de catastrophe sur catastrophe et mauvaise décision sur mauvaise décision. Et je me suis dit, mais en fait, j'aurais pas fait le plan. Ils auraient continué à se poser des questions dans leur tête et à se représenter les lieux à leur manière. J'aurais pas eu ce résultat-là, pour le coup.
Oui, mais un plan, ce n'est pas une illustration.
Oh, espèce de troll.
Bah, c'est un problème un peu c'est, différent. Non,
d'abord, d'une part, je dessine très bien. Et puis d'autre part, non, c'était un plus ou moins un plan, mais bon.
Ouais, mais...
Il n'empêche.
Je suis persuadé, pour revenir à Ambre, que le fait de jouer en découvrant le jeu dans sa version américaine, anglophone, et de le découvrir en français avec les illustrations de Florence Magnin, ça change quelque chose sur l'ambiance que tu vas donner.
Oui, c'est certain.
Voilà.
Enfin, et que moi, j'ai PDF en anglais et en français parce que c'était des questions de bac. Et bah, c'est pas du tout la même chose. Il y en a une qui est finalement assez rock'n'roll. Enfin, moi, je trouve que la version anglophone est quand même assez rock'n'roll avec ses crayons noir et blanc. Elle a quelque chose d'assez comique, d'assez comics en fait, dans ce sens-là, qui fait à la fois un peu épique et un petit peu pulp sur les bords. Enfin, on a vraiment l'impression qu'ils se sont concentrés sur l'humour un peu bizarre par moments de ces princes d'ambre, alors que les éditions de, enfin, les illustrations de Florence Magnin, elles ont vraiment la part au mystère chevaleresque. Enfin, on se rapproche beaucoup plus du romantisme 19e. Et oui, et puis d'un univers onirique presque enfantin sur certaines parties. Enfin, c'est ces livres d'enfants pour adultes, vous voyez ce que je veux dire?
Ouais. Mais c'est clair que Florence Magnin, par rapport à Ambre, c'est une. Enfin, c'est du franco-français, quoi. Hein. C'est,
ah oui, bah, ça
y a,
sent
y a
aussi.
Que nous,
hein.
Ça touche, quoi.
Oui, bah, c'est de nous qu'on parle, tu sais, donc. Mais tu vois, on va prendre un autre exemple.
Cocorico.
Oui, exactement. On va prendre un autre exemple. On va parler de Perdu sous la pluie. Je crois que c'est aux Utopiales. On avait parlé un petit peu de ça. Je sais. Je crois que tu étais dans la conversation, Vivien. De savoir si comment les illustrations de Perdu sous la pluie donc étaient. Alors, est-ce que tu peux nous les décrire déjà, peut-être comment elles avaient influencé la façon dont on jouait et comment ça se serait passé si tu avais choisi des illustrations complètement différentes.
Alors pour moi, alors pour les décrire, c'est des illustrations, je sais pas comment décrire ça en fait, très justement très début milieu 19e, quelque chose comme ça.
Ouais. Ah oui, clairement.
Ouais, avec des
très
des
conte
enfants.
De Perrault.
Ouais, c'est
un
ça.
Peu, un peu l'image d'Épinal comme ça.
Bon, ouais, c'est ça.
L'image d'Épinal, tout ça. Maintenant, l'influence que ça a sur les parties, j'ai l'impression que ça n'en a aucune en fait.
D'accord.
Alors moi, elles m'ont pas du tout influencé. Pour le coup, ouais. Le curseur d'influence
très,
des illustrations
très
est parfaitement neutre. C'est... À la différence de l'écriture.
C'est ça, c'est...
À la différence de Sur la route de Chrysopée. Moi, je veux dire, Sur la route de Chrysopée, c'est autant un texte que des illustrations. Je veux dire, moi, ton bouquin, il me fait voyager même sans lire, quoi.
Bah, l'idée, c'était ça, en fait. C'est que je voulais que les gens, ils aient un carnet de voyage, même s'ils jouaient pas au jeu.
Ça marche. Bah, écoute... me concerne, en tout cas.
Cool.
Bah, écoutez, vous avez absolument raison de me détromper quand je dis des conneries. Hein. C'est génial. Je suis tout à fait pour.
Non, mais c'est là qu'on voit. C'est là qu'on voit
alors,
aussi que c'est vraiment du cas par cas.
Bien
parce
sûr.
Parce qu'on a cité Florence Magnin ou les illustrations super moches de la version anglaise pour Ambre, alors que pour faire du sous la pluie, au final, on reconnaît le format, le style un peu enfantin de l'écriture, mais les illustrations, je sais pas, hein, y a peut-être dans le chat des gens qui diront que Perdu sous la pluie les a beaucoup influencés, mais au final, on se rend compte que c'est difficile de faire une règle, valable pour tous les jeux, quoi. Alors que, on pourrait se dire, ah, oh, une super couverture, genre à la Chan Renaissance ou à la Cthulhu, avec un vrai travail d'illustration, ça fait beaucoup. Ben, moi, quand j'ai vu les illustrations du Grumpf pour, la lune et les
12 lotus.
Les 12 lotus. Quand j'ai vu cette couverture violette simplissime, je me suis dit, la vache, mais c'est trop classe. Et ça m'a donné envie d'acheter le jeu.
Ouais,
alors
ouais,
que Cthulhu V7, pas du tout.
Ouais.
J'ai préféré les illustrations de Sur les frontières, qui me faisaient vraiment penser à Journey. Vous savez,
ah,
le
bah
jeu
tiens,
de Zad Game Company, là.
C'est un autre exemple excellent de ce point de vue-là, parce que Sur les frontières, il a plusieurs, comment on va appeler ça? C'est pas vraiment des hacks, c'est un peu des reskins, enfin des contextes différents dans lesquels on peut jouer, qu'on trouve sur le site d'ailleurs de l'auteur Manuel Bédou.
C'est comme les personnages de jeu, là, comme on dit, ils ont des skins.
Ouais, c'est ça. Mais c'est ouais, ça, parce que tu peux jouer au jeu dans son contexte initial, donc un contexte un petit peu comment le qualifier, antique, fantastique, voilà, enfin c'est un peu comme ça que je le ressens en tout cas. Peut-être que je me plante complètement encore une fois, mais c'est pas grave. Mais il existe des versions du jeu qui sont faites pour jouer plutôt dans l'Ouest américain, ou la dernière que j'avais vue, c'était pour jouer des jeunes communistes ukrainiens, je crois, ou quelque chose comme ça, sur la frontière Est, qui porte l'espoir politique de leur génération. Enfin, si j'ai bien suivi l'histoire, parce que je ne l'ai pas lu, celui-là, cette version-là. Donc, j'ai l'impression, pour faire passer ces changements de contexte, qui ne sont pas des changements de jeu, a priori, mais vraiment des changements de contexte, l'illustration a quand même un rôle important. Alors, il faudrait voir dans ce cas-là. Est-ce que... Parce que c'est à ça que je voulais en venir, finalement, avec Perdu sous la pluie, parce que j'avais l'impression que avec des illustrations différentes, genre une série d'illustrations à la Dark City, par exemple, si vous voyez de quoi je parle, un peu années 50, un petit peu futuriste sur certains côtés, sombre, étrange, etc., le jeu pourrait marcher, mais donnerait quelque chose d'un peu différent, quoi.
Je suis persuadée que tu joues pas à la même partie d'Ambre quand tu joues avec la version anglaise et la version française.
Ouais, pour Ambre, on l'a vu. Mais donc, la conclusion que vous avez, maintenant que j'ai égrené exemples.
En fait, pour répondre à ce que tu es en train de dire sur Perdu sous la pluie, rajouter des illustrations. En fait, j'ai l'impression que j'ai dû choisir en fait, des illustrations assez neutres, finalement, ou je sais pas comment dire ça.
En fait, c'est vrai qu'elles sont, comme dirais, en fait, ça fait un décalage étrange, mais il n'est pas inintéressant d'un point de vue esthétique. Entre ces images d'Épinal, qui finalement ne sont pas très angoissantes, à part qu'elles sont en noir et blanc, au final, c'est des enfants sous la pluie, ils ont des bonnes joues, ils ont des petites robes et tout ça, ils ont l'air de bien s'entendre, ça fait petits frères et sœurs qui sortent de la boulangerie, tu vois. Ouais. Et avec le ton hyper dur du jeu, qui finalement, je trouve, colle assez bien. Parce que tu te dis, bah, on est des enfants, on est perdu sous la pluie. Et ça peut être tellement violent psychologiquement, une partie de Perdu sous la pluie, que cette espèce de décalage faussement innocent est assez intéressant. Alors, ça n'influence pas tellement, mais je pense que c'était un bon choix.
Et puis, c'est un jeu sans background, en fait, sans univers, comment dire, il y a un background, mais l'univers est extrêmement très, comment dire, léger, ce qui fait qu'en
fait... C'est un setup plus qu'un univers.
C'est ça, tu peux pas le hacker, justement, enfin, tu peux le hacker en changeant complètement de concept, mais c'est plus le même jeu, parce que chaque partie est en fait déjà un hack, quoi. Chaque partie peut se dérouler d'un
peu. Est-ce que tu peux jouer des vieux perdus dans un hospice?
Bah, tu peux, mais du coup, c'est plus,
c'est plus le même
qu'un
jeu.
Hack, quoi. C'est, ça correspond plus, je sais pas si ça marche vraiment.
T'es vieux atteint d'Alzheimer, mais si, ça doit marcher.
Tu veux dire que les billes, au départ, en fait, ça représente ta mémoire. Et enfin,
bon. C'est des souvenirs, oh là là. Quelle horreur. Il est abominable. Mais je pense qu'avec les enfants, c'est encore pire parce qu'il y a une consonance un peu d'innocence saccagée, comme ça. Je sais pas si innocence saccagée avec les vieux d'Alzheimer, ça marche.
Ah, c'est une grande question, ça.
À tester.
Ouais, il faut faire un hack.
Tu veux dire, Vivien, peut-être que si tu avais choisi des illustrations très typées, tu aurais été finalement à l'encontre de ce que tu voulais, c'est-à-dire cette espèce de canevas de croquis très, très d'univers libre. Plutôt qu'un vrai univers.
Ben, c'est possible, ou alors peut-être que ça aurait eu le même effet, c'est-à-dire que l'univers n'est pas là pour soutenir les illustrations. Peut-être que finalement les illustrations auraient là encore servi en fait finalement juste d'agrément de lecture presque plutôt que dans le jeu lui-même quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un besoin en fait de passer par l'illustration parce que de toute façon il n'y a pas un univers à faire passer.
À la différence de Chrysopée effectivement où c'était très compliqué de à la fois d'en dire suffisamment pour que tout le monde joue au même jeu. Mais en n'en disant pas trop parce que ça reste un monde à explorer et qu'à part faire 45 pages de fluff, ça aurait été... Donc du coup, en fait, les illustrations ont pallié à ça.
Peut-être que l'illustration ne fonctionne qu'en renforcement, en quelque sorte, d'un univers écrit, quoi. ou en
sais
tout cas
pas.
d'un univers à faire passer. Peut-être pas forcément
Ah
écrit,
oui.
mais en tout cas d'un univers à transmettre.
Donc l'illustration comme vecteur d'univers et donc comme influence sur les parties, ça je pense qu'on l'a tous plus ou moins vécu. Mais est-ce que ça influence la façon d'y jouer? Bah pour Ambre, on a un exemple qui tenait bien la route. Est-ce que ce serait une exception ou est-ce que ce serait quelque chose qu'on retrouve plus ou moins
Bah,
fréquemment?
moi j'ai un exemple, ça me fait penser à Anima, j'ai l'impression que ce jeu est bien considéré parce que les illustrations donnent le sentiment aux gens qui vont jouer à un truc cool, plein de gars, et ça leur fait oublier presque l'aspect tu fais 115% de dégâts, sors ta calculatrice ou des trucs comme ça, quoi. Donc je pense que ça a une influence sur la façon de jouer, hein, malgré tout.
Oui, je pense aussi. Puis on peut en citer un autre, hein. Et puis évidemment, c'est à ce moment-là que je perds le titre, alors que j'ai la couverture sous les yeux, où tu joues des gamins dans des mécas, merde, avec des attaches et des
Merde,
choses. Non, pas
j'allais dire
Evangelion. Voilà.
Evangelion.
Oui, merci. Tu vois, comme quoi, tu vois, ça marche. Voilà, avec les illustrations et la mise en page d'ailleurs, hein, tout entière, parce que tu as un système de dialogue qui est illustré un peu comme une BD ou comme un didacticiel de jeu vidéo, où tu as toujours la petite tête du personnage quand il parle. Quand tu regardes Blue Stage, enfin, voilà, c'est ça te donne une ambiance, ça te donne aussi un style, effectivement un peu manga, un peu Evangelion, quoique un peu plus doux, un peu arrondi, quoi.
Moi, je me demande si ça influe pas en fait sur enfin voilà, en quel cas ça le génère, en quel cas cette ambiance graphique génère des idées chez les futurs joueurs, ou est-ce que ça les appelle pas plutôt, tu vois? Est-ce que ça donne des idées aux gens, ou est-ce que parce que ça porte un message en soi? Que les futurs joueurs se disent, tiens, tiens, ouais, effectivement, c'est à ça que je voulais jouer, en fait.
Faut pas
Ben,
oublier
tu
oui
vois, c'est ma question, c'est un peu, est-ce que c'est la poule ou l'œuf dans cette
ouais
histoire?
alors
Il y a des bouquins que tu ouvres, et quand tu vois les illustrations ou le texte, tu dis, ah ouais, tiens, mais en fait, c'est à ça que j'ai envie de jouer, c'est vrai, alors que tu connais pas le jeu.
oui mais Xavier
Tu vois?
ouais Xavier
Vas-y.
c'est un peu ce que Morgane disait tout à l'heure, Morgane Petit-Tonnerre, pardon, disait tout à l'heure. Est-ce que ce qu'on a pu lire aussi sur le chat, il y a pas mal de joueurs qui ne voient pas les illustrations du jeu, et par conséquent, le contact qu'ils ont, c'est par le récit qu'en fait le maître du jeu. Du coup,
Ah oui.
je ne sais pas si ton argument se tient. Je sais que ça arrive dans un certain nombre de cas, parce que on a déjà entendu, enfin moi en tout cas, j'ai déjà entendu plein de joueurs dire oui, j'adore l'univers de jeu, j'adore ses illustrations, ça m'inspire vachement, j'ai envie d'y jouer, etc. Mais, c'est pas
Parce que
toujours
tu
le
vois,
cas, quoi.
cela dit, ouais, j'ai. Ah pardon, vas-y, finis.
Si on fait le parallèle avec le fluff, il n'est pas facile d'accès, quoi. Il faut que tu tapes des pages et des pages de bouquins pour rentrer dedans, alors qu'une illustration, elle te parle quasiment instantanément, quoi.
C'est exactement ce que j'allais dire. En fait, tu as plein de joueurs qui n'auront pas contact avec le fluff parce que ils sont pas nombreux à se taper les 400 ou 500 pages de texte du livre de règles possédé par le maître du jeu, alors qu'au final, pendant que le maître de jeu est en train de préparer sa partie ou fait une petite scène avec un joueur dans un coin, quand il n'y a pas de gros secrets planqués à l'intérieur du livre, les joueurs le feuilletent en attendant. Et donc, en fait, ils lisent pas, à part quelques points de règles. Intéressés, ils vont surtout explorer l'univers graphique. Enfin, je pense que ça, je sais pas, L5R par exemple. Voilà, L5R, tu feuillettes le bouquin, tu lis pas vraiment, tu lis des petits textes d'ambiance qui sont planqués en haut des chapitres, et puis tu profites des illustrations en attendant que le MJ est fini, quoi.
Oui, je suis d'accord. Moi,
Alors,
j'ai eu des joueurs qui
alors.
faisaient ça, ouais. Vas-y, vas-y. Et puis Vivien voulait parler,
Bon.
je crois.
Non, moi je voulais juste rappeler en fait qu'on n'a pas parlé par exemple des dessins de pré-tirés en fait dans les bouquins, genre les espèces de cahiers couleurs là qui sont pas mal faits et qui ont une influence assez forte, je pense, sur la façon dont un joueur s'approprie le jeu justement.
Ouais, c'était une
J'ai
très
pas
bonne
vu.
remarque.
Moi ça me fait penser par exemple à Chine, où je trouvais les archétypes extrêmement comment dire attirants en fait, donnaient vraiment envie de s'emparer du jeu. Plus peut-être parfois que par exemple le background ou des choses comme ça, quoi.
Ah bah tiens, alors ça me fait penser à si on veut parler d'un jeu assez iconique, mais qui a complètement raté sa cible à cause du choix de la charte graphique quand il est sorti, c'est Shadowrun.
Ah.
Shadowrun, première et deuxième édition. Je veux dire, Shadowrun suit dans l'histoire du jeu de rôle de près Cyberpunk. Cyberpunk, on a des illustrations dark, gothiques, qui font vraiment fantasmer beaucoup de joueurs à l'époque. Et à côté de ça, sort Shadowrun, où c'est fait du cyberpunk chez des schtroumpfs, quoi, avec des couleurs super pétantes. Et je pense qu'il a vraiment raté sa cible en termes de marketing à cause de ça, quoi.
Oui, ou alors ça a influencé les parties, parce que moi j'ai fait une mini campagne de Shadowrun, et c'est vrai que c'était du Cowboy Bebop, hein. Alors, on s'est éclaté comme des fous, mais c'est vrai que ça avait un côté un petit peu
ça commence à se rappeler.
Pas voilà, sérieux, faut... ouais. C'était pas dark, c'était pas ouais, du coup
voilà,
dark.
Dark.
Je veux dire, on s'est quand même retrouvé après à se faire un joint
c'était
avec
punk,
une plume de
quoi.
Quetzalcoatl. Enfin,
voilà, c'était pas punk.
Non.
Et ça commence. Enfin voilà, ça, il faut vraiment attendre la troisième édition pour que les dans la base en tout cas, hein, je parle pas des scénarios, mais dans la base, je trouve qu'on retrouve une ambiance cyberpunk dans Shadowrun, en tout cas au travers de l'illustration graphique. Et moi, à l'époque, qui était très fan de Don, mais pas du tout de cyberpunk, j'avais trouvé ça génial parce que justement, le côté schtroumpflan flashy me plaisait plus. Mais j'ai souvent entendu cette remarque par pas mal de monde, quoi. Qui, voilà, quand tu leur disais cyberpunk, ils trouvaient ça tout de suite ridicule. Mais effectivement, quand tu regardes les illustrations des premières éditions, voilà. On peut se poser la question d'ailleurs, est-ce que le dark vend mieux que. Ouais, le dark gothique vend-il mieux que...
Bon, ça dépend des époques. Dans les années 90, ça paraît évident. Mais...
Voilà, dans les années 90, en tout cas, c'est assez évident.
Je sais pas, moi j'ai toujours trouvé les illustrations. Pour le coup, la couverture de Vampire Requiem était intéressante, autant les illustrations intérieures toujours gonflées, quoi. Enfin, parce que pour le coup, elles étaient hyper archétypales, et j'ai trouvé que du coup, elles conduisaient le jeu dans des archétypes dont on pouvait plus sortir. Enfin,
ouais,
en tout cas, je pense à Requiem. Oui.
Mais, est-ce que ça te conduit pas à aborder le jeu de manière, pour reprendre la terminologie de Thomas Munier encore une fois, esthétique, c'est-à-dire à reproduire ce que tu vois dans le bouquin et à jouer de cette manière-là, parce que les illustrations sont archétypales, justement.
Bah oui, mais ça peut être limitant. C'est-à-dire que le jeu a un potentiel, le jeu a aussi un potentiel intéressant, et que du coup les illustrations sont à la fois tellement fortes que, enfin, elles te brident. C'est-à-dire que t'as l'impression qu'on te laisse pas de porte de sortie.
Petit tonnerre.
Dit la joueuse de sens.
Petit tonnerre.
Bah, alors pardon, autant pour moi.
Je t'aime,
mais...
c'était juste un troll.
Si avec ça, il ne nous écoute pas. Donc, petit tonnerre, on ne t'a pas entendu depuis un moment. Est-ce que tu es toujours en opposition? Est-ce que tu n'es toujours pas d'accord? Ou est-ce que tu trouves qu'on dit des choses un peu plus sensées que tout à l'heure?
Je pense que Morgane pose un terrain.
Non. Jusque-là, je n'ai rien entendu qui me choque absolument.
D'accord, parce que toi, tu avais plutôt tendance tout à l'heure à nous dire que d'après toi, les illustrations n'influençaient pas vraiment les parties. Ou alors j'ai mal compris.
Depuis tout à l'heure, tu poses la question en quoi les illustrations influencent la manière de jouer, etc. Et je vois toujours pas en quoi ça. Enfin, on parle des illustrations intérieures, hein,
mais oui.
J'ai du mal à voir en quoi ça peut influencer la manière de jouer, en fait, parce que c'est.
Alors, je vais répondre à ta question. Je pense pas que ça influe en jeu. Moi, les illustrations, elles m'ont influencé quand je pense au jeu, quand je prépare le jeu, en tant que meneur, tu vois.
Donc, elles influencent le jeu quand tu es en train d'y jouer, parce que ta préparation influence la façon dont tu vas proposer
le
jeu.
Elle influence en amont, elle l'influence
pas importe.
En cours de partie. Beaucoup moins.
Ça dépend comment tu te sers du bouquin. Si tu fais régulièrement appel au livre quand tu fais une partie, parce que là, on parle aussi d'un format classique avec MJ joueur, mais excusez-moi, je vais prêcher pour ma paroisse, mais Chrysopée, c'est un jeu que tu peux rouvrir en cours de partie.
Oui.
Voilà. Et donc du coup, ça te prépare en amont, mais je pense que si tu l'as sous les yeux pendant que t'écris ou je sais pas quoi, ça doit pouvoir jouer aussi.
Oui, c'est
Alors que
ça me
si
paraît.
tu joues à Rollmaster, évidemment, comme tu as la table de critique ouverte en permanence sur le jeu, ça le fait moins, quoi.
Après, peut-être qu'avoir des lignes et des colonnes en permanence étalées devant les yeux, ou des tables de pourcentage, ça influence ta façon de jouer, hein. Ça marche aussi avec les tables de Cthulhu, hein.
C'est pas faux.
Ah bah attends. Je pense que ça te met dans une condition psychologique
Je vais
particulière.
donner, je vais, je vais donner un exemple. Je vais donner un exemple pour Morgane, enfin pour Petit Tonnerre. Voilà. Bon, je voulais donner un exemple.
Il va
Attention.
arriver dans les brancards.
C'est ça, il va rouer dans les brancards. Quand je dis que ça peut influencer ta façon de jouer, si on reprend l'exemple qu'on a cité précédemment, quand tu lis Ambre avec des illustrations type comique, un peu humoristique, un peu cyberpunk d'ailleurs, sur certaines choses, hein, quand tu vas notamment dans les suppléments, etc.
Ouais.
Ça va te pousser à proposer des scénars d'ambre. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai vu, hein. Donc peut-être que c'est une exception, encore une fois, mais proposer des scénars, des parties d'ambre de façon plus générale, très aventureuses où tu vas explorer les ombres, relever des défis et revenir pour le repos du guerrier entre guillemets à ambre et en même temps affronter ta famille qui te court après dans ambre, etc. Enfin, bon, toute cette
Oui, avec
intrigue-là.
deux poursuites en voiture en plein milieu de la forêt d'Ardennes, et voilà.
Voilà, le côté vraiment un peu action, quoi. D'un autre côté, quand tu joues avec en tête les illustrations de Florence Magnin, j'y vois beaucoup plus le développement du côté philosophique onirique d'Ambre, c'est-à-dire d'interrogation sur la nature de la réalité. J'y vois beaucoup plus l'intrigue politique vénitienne, si tu veux, byzantine, etc. Et c'est un petit peu ce que j'ai vu en partie. Alors, encore une fois, peut-être que c'est une énorme connerie ou une énorme exception, hein. Mais de ce
Alors
point de
moi,
vue-là, je trouve
je
que
valide à
c'était.
100% de ce que 100% ce que tu dis. En tout cas pour ce jeu-là.
Oui, pour ce jeu-là. Et donc, c'est en cela que je dis que ça influence ta partie. Je ne veux pas dire que tu es forcé d'ouvrir le bouquin pour avoir une influence sur la
Pour
partie.
Ambre, c'est biaisé parce que dès le départ, enfin moi, la première traduction en français d'Ambre
Ouais.
que j'ai croisée et que j'ai lue quand j'étais tout jeune, fraîchement sorti de l'adolescence, les romans, ils étaient déjà illustrés par Florence Magnin.
Oui, c'est elle qui avait fait la couverture, c'est vrai.
Des romans en
Ouais.
poche chez Deneuil, je crois.
Oui, c'est ça,
Donc
exactement, ouais.
dès le départ, moi, j'ai Ambre, il était associé à cet imaginaire-là. C'est pas le jeu de rôle qui l'a.
Ouais, bah, tu vois, je vais aller un peu plus loin dans l'histoire. Ambre, globalement, le cycle des princes d'Ambre se découpe en deux parties. D'accord? Une
Oui.
partie qui est très intrigue, qui est la première partie du cycle,
Le cycle de Corwin.
le cycle de
Ouais.
Corwin, et une partie qui est un peu plus foutraque, un peu plus aventure,
Mystique. Ouais, un peu
plus
plus. Ah,
loin,
si,
ouais.
quand même.
P
Ah,
Mysticopulp.
cycle de. Oui, non, c'est
Oui,
sûr. On peut. Non, mais si, on peut quand même. Si, on peut le dire.
D'accord?
Mythicopulp.
Qui est le cycle de
Jusqu'au
Merlin,
Merlin.
quoi. Voilà.
Ouais.
Et j'ai moi j'ai l'expérience que j'en ai, c'est qu'avec le bouquin américain, on jouait plutôt Merlin, avec le bouquin français, on jouait plutôt Corwin. Voilà.
Eh oui, moi je suis très d'accord avec ça. Enfin, typiquement, je pense que c'est aussi pour ça que je préfère les illustrations des suppléments aux celles des bouquins d'origine, en tout cas issus de la version anglaise, parce que je trouve que je sais pas pourquoi, mais quand il s'agit d'aller mettre son nez dans le chaos ou des choses comme ça, c'est beaucoup plus des illustrations à la Merlin, donc un peu comics que j'imagine.
Ouais,
Ouais,
alors là,
voilà, voilà.
ça soulève la question de est-ce que c'est l'illustration qui vous fait penser ça ou est-ce que c'est
Alors,
le cycle, enfin bref.
mais je pense que ça se répond. Enfin,
Oui.
je pense que les mauvais. Enfin,
Tu veux
je
dire
pense
que
que
les
les.
mauvaises illustrations te font penser à la mauvaise partie des romans, c'est ça?
C'est pas
Oui,
faux.
ou alors elle te. Ouais, oui, ou alors elle te donne une. C'est pas tout à fait faux. Ou alors elle te donne une mauvaise. Enfin, en tout cas, elles sont capables de te gâcher ton plaisir de jeu. Je veux dire, on a suffisamment craché comme ça sur les bouquins de Warhammer 40K qui peut avoir des illustrations épiques, léchées et tout. Ben, celles qu'on voit sur. Je sais plus comment s'appelle Maxime. Je fais appel au chat. Comment s'appelle le dessinateur qui a fait une partie des illustrations? Et c'est immonde. Enfin, c'est ni fait ni à faire, tu comprends rien à ce qui se passe, et t'es très très loin de l'aspiration badass, épique, même un petit peu mystique, impériale du jeu.
Alors ça me fait penser, tiens, une question qui pourrait peut-être recoller un peu avec le sujet, avec le truc, c'est que si je me souviens bien, Warhammer 40 000, notamment, comme tu dis, il y a au moins plusieurs univers, comment dire, visuels.
Oui, puis en plus, ils coexistent dans le livre, c'est ça qui est extrêmement perturbant.
Et du coup, la question que je me posais, c'est est-ce que c'est forcément une mauvaise chose de faire coexister plusieurs univers visuels, ou est-ce que ça participe à une pluralité de points de vue, en fait?
Ouais, enfin oui,
c'est vrai. Oui. Ou pas, quoi. Parce que je sais que la mode maintenant, aujourd'hui, c'est quand même globalement d'aller plus vers une uniformité visuelle, en un sens.
Oui, c'est vrai. T'essayes d'avoir une cohérence. Tu fais bosser deux illustrateurs ou trois.
Le rôle d'avant, c'était carrément jamais ça, quoi. C'était, ça partait dans plusieurs directions, quoi.
Ouais. Ah, c'est bah, je pense que ça doit pouvoir marcher. Ou pas. Enfin, en tout cas, moi, pour Warhammer 40K, c'est vrai que j'étais très sensible à ce côté un petit peu épique, et je trouvais que du coup, les illustrations un peu pompiers, un peu classe, elles allaient bien, quoi. Elles étaient super typées, mais ça faisait vraiment image de propagande, et je trouvais que ça collait bien.
Je me demande, moi, en fait, si cette pluralité, ça permet pas justement de se débarrasser de ce dont vous parliez, c'est-à-dire le côté enfermement dans un univers.
Oui, c'est possible. Ouais, ouais. Peut-être qu'il faudrait sortir des livres de jeu où les illustrations sont à terminer ou à colorier.
Le livre à colorier, c'est pas mal comme concept,
mais
ça.
Mais pourquoi pas.
Eh ben, écoute, Jemri, si tu nous écoutes encore, bah vas-y. Hein. Non, les textes à trous, on fait déjà. Ça s'appelle les jeux propulsés par l'apocalypse. Hein.
Mais ceci dit, je crois que c'est Eugénie qui faisait remarquer dans le chat, effectivement, qui posait la question de est-ce que c'est vraiment utile, par exemple, des illustrations dans des jeux où l'univers est à créer, en fait, à chaque campagne, en quelque sorte, comme les jeux propulsés par l'apocalypse, ou finalement Perdu sous la pluie, ou plein d'autres jeux un peu indépendants aussi, quoi. Qu'est-ce qu'on veut, cherche à faire passer par là, et est-ce qu'on risque pas de figer, justement, l'univers, ou ce genre de choses?
Bah, c'est toujours le risque, hein, de toute façon. C'est de, en plus d'imposer ton style par l'écriture, en posant une charte graphique, t'imposes aussi quelque part une charte graphique aux parties. Alors parfois c'est indispensable, parce que si t'es un monde à explorer ou à inventer, il faut quand même pouvoir donner une direction, c'est ce qu'on appelle la fameuse couleur, tu sais. Et je pense qu'effectivement, à partir du moment où tu prends un type d'illustration, plutôt pulp, plutôt onirique, plutôt lambda, tu donnes
une impulsion, en tout cas.
Ouais. Tu donnes une impulsion, ça c'est sûr, tu donnes une direction. Après, les gens la suivent ou la suivent pas, mais...
Du coup, je me demande ce qu'en pensent Globo et Julien de ces deux trucs, la pluralité des illustrations et les univers.
Alors, la pluralité des illustrations, c'est vrai que c'est un truc qui nous avait marqué quand on jouait sur les gammes White Wolf autrefois, Vampire, et en particulier Werewolf, qui avait des illustrations très très différentes en fonction des illustrateurs et en fonction des éditions, et qui donnait vraiment une apparence différente. Le grand truc, c'était le passage d'illustrations crades, horrifiques, à des illustrations presque manga dans certaines éditions. Et ça avait fait pas mal parler à l'époque. Et c'est vrai que ça te donne une image complètement différente du jeu. Est-ce que c'est un avantage? Est-ce que c'est pas un avantage? Je ne sais pas. J'ai l'impression que, certes, ça peut te donner une certaine liberté d'aborder le jeu différemment, mais qu'en même temps, ça te crée peut-être presque une certaine dissonance, c'est-à-dire une difficulté d'appréhender le jeu. Donc je n'ai pas vraiment d'avis sur le sujet. On peut citer un jeu qui, au contraire, a une charte extrêmement focalisée, puisque c'est un seul illustrateur qui le fait, c'est Sans Détour qui a publié Les Chroniques des Féales, un bouquin complètement illustré, je crois, par Nicolas Fructus, et qui te donne des illustrations extrêmement typées, extrêmement sombres, crades, etc. Et ça influence énormément la façon dont tu vas voir le jeu, quoi. Ça, c'est voilà, ça n'a pas plu à tout le monde d'ailleurs, hein. Mais c'est clair que les illustrations de Nicolas Fructus, de ce point de vue-là, influencent beaucoup, beaucoup le jeu, de mon point de vue. Globo, Xavier, qu'est-ce que t'en penses?
Alors, Moi, mon premier jeu de rôle, et je suis toujours un peu loin, hein, c'est Donjons et Dragons quand même, c'est un
Bah
secret
ouais.
pour personne. Et pour le coup, il a eu beaucoup d'illustrateurs très différents, avec des graphismes très, très forts et très particuliers. Pour le coup, à l'époque, c'était pas forcément mainstream, hein, parfois moche même, et pourtant expressif. Hein. Et tout ça m'a aidé à construire un univers imaginaire foutraque qu'est Donjon Dragon des premiers temps. Maintenant, aujourd'hui, vu que la théorie, en tout cas de création de jeu, avec le système d'Osmater, elle nous propulse quand même vers une idée,
Apocalypse.
pas forcément. Ouais, non, 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 non. Ouais, non, mais tu vois, je veux dire, où tout serait intégré, tout serait cohérent. C'est-à-dire, le système va avec l'univers, l'univers va avec le système, et donc les illustrations vont avec tout ça, et avec les défauts que ça amène, c'est-à-dire les problèmes de rejouabilité qu'on peut avoir à certains jeux.
C'est
Mais
ça.
du coup, quand on avance dans cette idée que on n'est pas sur des jeux génériques, mais on est sur des jeux où on va intégrer une ambiance, on va intégrer une expérience de jeu, un système, etc. Il y a un intérêt à garder une cohérence, quoi. Et du coup, les graphismes, les illustrations, bah, elles s'intègrent, à mon avis, dans cette logique, quoi. Mais moi, j'ai vécu, enfin, moi, j'ai débuté le jeu de rôle à une époque où on s'en foutait tout ça, quoi. C'était foutraque. Même les règles, tu sentais que les règles, elles n'étaient pas faites à une seule main. Mais quand tu relis les bouquins de règles de Gary Gygax, là, les premières versions de Donjons et Dragons, tu te demandes si c'est le même mec qui a tout écrit, quoi. Il y a des moments, c'est. Enfin, tu vois bien que c'est du briquet de broc, que c'est bricolé. Et donc, les illustrations, elles sont de briquet de broc, elles sont bricolées aussi. Et pourtant, elles étaient quand même porteuses d'un imaginaire fort. Voilà.
Ouais.
J'ai pété l'ambiance ou quoi?
Non, non,
Non, non, pas du tout.
c'est
On
bien.
réfléchit en fait.
Mais
C'est du
Sylvain
bien.
qui va sur le chat, du coup, il peut plus rien faire.
Non, non, voilà, c'est
Bon,
ça.
ouais,
Non,
parce
non,
que
mais.
ça se déchaîne aussi sur le
Non, non,
chat.
non,
Hein,
non,
y a
je
plein.
réfléchis, je
Oui.
lis, et
Je prends les paris.
je me
Ouais,
pose une
sur le
question.
chat, ils ont des bonnes idées, mais elles sont trop bonnes pour nous, on n'arrive pas à les reprendre.
Ouais, mais on peut les reprendre, hein, n'hésite pas si tu
Bah,
en
mais je sais pas
repères.
quoi ajouter, en fait. Hein.
Eh bien, tant pis pour nos auditeurs, vous n'avez qu'à.
Voilà.
Être
Vous
sur
avez
le
quatre
chat et vous connaîtrez la profondeur des réflexions qui ont lieu, qui ce soir, je dois dire, sont vraiment intéressantes. C'est pas toujours
La
le cas.
profondeur de notre intimité.
Voilà, on y revient. Alors,
Ah,
question.
c'est sûr que c'est pas le même niveau que sur le chat ici, hein.
Ouais, bah c'est clair, on est moins bon. Hein.
Cela dit, enfin, pour rebondir sur ce que disait Xavier, moi je pense qu'il y a de ça, c'est-à-dire que quand tu vois un jeu où les illustrations sont un petit peu bah, vont un petit peu à droite à gauche dans leur style, dans leur bah, même dans leurs illustrateurs finalement, t'as l'impression que le jeu sait exactement où il veut aller, et ça correspond aussi, je pense, à un type de jeu où on te proposait un univers, on te proposait des règles, et tu pouvais en faire un peu ce que tu voulais. Voilà, bah, tous les grands jeux de rôle tradis qu'on a cités depuis jusque-là, Donjons et Dragons, Shadowrun, L5R, où chaque MJ en fait pouvait s'inspirer du graphisme qui lui plaisait bien pour faire sa tambouille. Alors c'est vrai qu'en regardant, on se dit bah c'est pas très homogène, mais en même temps c'est vrai que l'homogénéité entre la forme, le fond, le système, ça nous touche aussi parce que le système d'Osmater est passé par là. Mais
À ce propos,
en plus du goût esthétique personnel, hein.
ouais, à ce propos, on dit que là, je pense qu'on est à peu près d'accord pour dire que l'illustration va souvent, pas toujours, mais souvent influencer la couleur du jeu. Est-ce que ça influence d'autres paramètres ou pas? Je veux dire le type de problématique que tu vas aborder, par exemple, qui sont pas nécessairement de la couleur, parce que ou la façon dont tu vas les aborder. Est-ce que ça peut
Bah,
influencer le type de jeu, tu vois, tout simplement, morale,
oui,
etc.
mais enfin, c'est ce que t'as expliqué déjà avec Ambre tout à l'heure,
Ouais.
que entre le côté action, épique, découverte, exploration, et le côté plus métaphysique, philosophique, sentimental ou jeu de cour, bah voilà,
Ouais,
enfin,
d'accord.
là t'as deux styles de jeu différents.
Moi, j'ai une anecdote à rapporter à ce sujet par rapport à ce que tu demandais, Julien. Depuis que je vous écoute, là, j'étais en train depuis quelques minutes de penser à Eclipse Phase parce que à une période, un petit peu avant que le jeu de base sorte, suivi de près par les suppléments, parce que je crois que tout avait été annoncé en même temps. Enfin bref, c'était un beau bordel. Il y avait j'ai lu quelque part un article de blog où quelqu'un commentait, ils avaient dévoilé une partie de l'illustration de couverture et de je ne sais plus quel illustrateur d'ailleurs, voilà, j'ai zappé. L'illustration de couverture était dans les tons orange, flashy, etc. La personne qui a écrit ce billet de blog disait, mais je comprends pas, on nous a vendu du space op, hard science, transhumanisme, machin, etc. Et pourquoi du jaune, quoi? Et
ah, c'est vrai que du bleu.
Voilà, c'est vrai que jaune, quand on parle d'espace, enfin de SF, plus par la force des choses, par des œuvres et surtout des films, c'est plutôt associé à l'espace, on va dire un petit peu crasseux, l'espace.
Oui, un survival. Peu Blade Runner, quoi.
Voilà.
Un peu
c'est probablement depuis Blade Runner, d'ailleurs.
Alors, l'auteur de la couverture, c'est Stéphane Martinière.
Stéphane Martinière, voilà. Et donc, voilà, il était choqué de se retrouver avec du orange sous les yeux, alors que pour lui, Eclipse Phase, on lui a vendu ça comme de la SF bleue, c'est-à-dire de la SF Hard Science dans l'espace métallique.
De la SF Apple, quoi.
C'est ça, de la SF. Je cherche le nom de cet autre illustrateur. Que j'ai mangé. C'est pas grave, peu importe. Mais voilà, comme quoi, mine de rien, ça, c'est par rapport à ce que tu disais, Julien, c'est très, ne serait-ce qu'un choix de couleur, ça peut être extrêmement.
Oui, oui, oui. Parce que tu introduis là, l'élément horreur, en fait, d'Eclipse Phase.
Hein, ben c'est vrai qu'en plus cette illustration, j'essaie de chercher cette illustration, mais c'est vrai qu'elle était, en plus, elle faisait un peu horrifique pour le coup. Elle faisait pas tellement, elle évoquait pas tellement l'espace hard science avec des beaux vaisseaux chromés.
Et ça correspond. Est-ce que ça correspond, parce que moi j'ai pas joué avec Eclipse Phase, mais est-ce que ça correspond au jeu du coup, ce côté un peu horreur, un peu Blade Runner.
Le jeu, alors c'est... En fait, bon, on peut tout faire hein, dans Eclipse Phase. Mais après, c'est vrai que Eclipse Phase est quand même plus branché sur.
Je vous ai mis la couverture.
Ah voilà, j'ai pas cette illustration. D'où est-ce qu'elle vient? Ouais, mais c'est pas celle-là que.
C'est pas celle-là que tu pensais parce que c'est celle-là l'illustration de couverture. Ou alors c'est celle-là. Attends, je remonte un peu.
Bon, comme vous ne pouviez pas, je
sais pas, j'espère que les spectateurs peuvent voir ça parce que qu'on soit pas en train de parler dans
normalement.
Et non, Eclipse Phase. Après, c'est vrai que Eclipse Phase, de manière générale, le jeu, il est illustré comme du space up presque, j'ai envie de dire presque à l'ancienne parce que c'est assez.
Vas-y.
Etc. Mais c'est vrai que ça peut être vieille SF. Années 90, c'est pas si vieux en fait. Mais... Alors que Eclipse Phase est un jeu éminemment justement au contraire, quand on s'immerge un petit peu dans les règles, etc., on comprend que c'est pas tellement la partie space opéra qui est importante, c'est vraiment plus la partie transhumaniste, c'est plus la partie philosophique finalement et métaphysique du jeu. Je sais pas si t'es d'accord avec ça, Julien, mais.
Je pense qu'il y a plein de façons d'y jouer. J'ai beaucoup aimé une série récente qui me fait beaucoup, beaucoup penser à Eclipse Phase, qui est The Expanse, où tu
ouais,
as...
Super,
qui a vraiment une... Hop, je vais arrêter un petit peu la diffusion, voilà. Qui est une série qui te donne cet aspect... oui, on vit dans l'espace, mais non, on maîtrise pas encore complètement notre environnement, et qui ne correspond pas à Eclipse Phase sur le fait que dans Eclipse Phase, tu maîtrises ton corps, en fait. Alors que dans The Expanse, le corps des Belters commence à changer, simplement. Mais, voilà. Je sais, ouais, ça, disons que ça permet d'aborder un certain nombre de questions, je suis d'accord. Mais c'est un jeu auquel tu peux jouer
et
complètement
tu vois,
dans l'horreur.
Tu compares pour parler de la série, justement, The Expanse, tu compares The Expanse et Battlestar Galactica.
Ouais.
C'est, voilà. Au niveau
c'est pas du tout la même
visuel,
chose. Oui, oui.
Juste
oui.
Au niveau visuel, c'est très, très différent.
Battlestar Galactica, c'est gris ou bleu, quoi.
C'est plus gris ou jaune, même, j'aurais dit.
Jaune, ouais, je sais pas. Moi, j'aurais dit c'est de la SF gris-bleu. Bon.
Et donc The Expanse, vous le placez où dans le spectre?
Dans la SF bleue.
Ah bon?
Ah, je
c'est
sais
plus
pas.
Un cookie petit votre truc, les gars.
Bref, peu importe. Allez hop, passons, parce que là, je pense qu'on s'égare complètement.
Moi, je voulais citer le chat. Je voulais faire un petit coucou à Obi, qui a l'air de nous écouter, qui a dit un truc qui résonne un peu à ce que vous dites. Avec ce que vous disiez, il dit, deux points ouvrez les guillemets, il m'arrive de montrer des illustrations d'un jeu quand je fais une partie en convention pour donner un cadre imaginaire à mes joueurs. Cependant, ils sont étonnés de faire un scénario dark sur Ryutama. Et ça, je trouve que c'est un super exemple. Mmh. Parce que Ryutama, c'est
tout mignon. Ça a l'air tellement kawaii, ouais.
Ouais, c'est tout kawaii, tout mignon, etc. Et je suis persuadé que Obi prend un plaisir sadique à faire des scénarios dark.
Moi, je suis sûre que c'est comme Perdu sous la pluie, tu peux faire du dark avec du kawaii et que ça fonctionne très bien parce que ça, justement, ils ne s'y attendent pas.
Voilà. Pour moi, en plus, Ryutama, c'est typiquement, alors là, ça me refait penser à la couverture, le principe du jeu où j'ai acheté sur la couverture, sur l'image qu'il me vendait en quelque sorte du kawaii, etc., et mignon, et j'avoue que j'ai abandonné sur le texte, quoi. En fait, typiquement. Sur les tableaux, les machins, qui du coup me vendaient une image autre. Après, peut-être qu'en jouant, c'est différent, mais il y a eu une espèce
de choc.
De choc, c'est ça, conceptuel entre les deux, quoi. Et... Après, c'est sûr que si on me faisait un scénario super dark à Ryutama, alors avec toutes les illustrations chouettes qu'il y a dedans, je pense que je serais un peu choqué.
Surpris, pour le moins.
Ça dépend à quel point. Ça dépend ce qu'on appelle dark aussi. Parce que bon, si c'est juste un peu dark, ça peut passer. Si c'est vraiment gore, je sais pas si.
Ouais.
Je sais pas si un scénario dark, ce soit vraiment le propos de Ryutama, cela dit.
Ah, il y a un dragon, je crois, qui est un peu plus sombre que les autres. Et où tu peux aborder des sujets plus sombres. Mais t'es censé le faire au bout d'un certain temps. Donc c'est aussi, il y a aussi ça peut-être qui peut.
Ouais.
C'est pour renouveler un peu l'intérêt aussi, quoi.
Bon, voilà. Bon, on perd le fil là. On en était
ouais,
où
ouais.
C'est le podcast
alors,
de la dernière fois en fait.
Alors.
Ouais, ouais. Donc, on est sur l'image. On a parlé de la couverture, on a parlé des illustrations intérieures et de ce qui m'intéressait personnellement le plus dans le sujet, en dehors des aspects purement techniques de création de bouquins. Ce qui m'intéressait le plus, c'est-à-dire à savoir est-ce que les illustrations d'un jeu vont influencer la façon dont on y joue. Donc, je pense qu'on a apporté quelques points de vue sur le sujet.
On n'a pas répondu à combien d'illustrations.
Ah, on n'a pas répondu à combien d'illustrations. Bah, peut-être que ça va être une question qui va nous permettre de faire la transition avec la dernière partie, ou l'avant-dernière partie, puisque Morgan voulait, enfin, Petit Honneur voulait parler d'autre chose encore, qui était la question de l'illustrateur lui-même, que tu voulais aborder, Vivien. Donc, combien d'illustrations sont nécessaires dans un bouquin ? Mon opinion, c'est que potentiellement, aucune sont nécessaires, mais qu'elles sont utiles.
Bah, la réponse la plus évidente, c'est ça dépend.
Oui, bah, c'est évidemment. Ça. C'est exactement ça. Et ça dépend du jeu et ça dépend des illustrations.
Jeu. Je sais que j'ai tendance à me fixer, moi, comme moyenne, à peu près une illustration correcte par chapitre. J'avoue que j'aime assez le principe qui est assez répandu, finalement, de mettre une belle illustration pleine page avant le chapitre, ça permet de bien démarquer en plus. Donc, ça facilite aussi l'accès aux informations en un sens.
Oui, puis ça permet de faire respirer parce que, voilà, enfin, quand t'as du texte, une illustration, ça permet simplement de faire une coupure dans la mise en page. Donc, ça rythme simplement la lecture. Donc, au final, tu pourrais penser que les illustrations, au-delà de leur effet d'influence psychologique, ont aussi un pur rôle structurelle.
L'oxygénation du texte.
Voilà, exactement. Un pur rôle structurel. Mais pourquoi une illustration pleine page? Tu peux aussi, on connaît les petites bannières, les petits symboles qui rythment les paragraphes, des choses comme ça.
Au passage, l'illustration comme aération du texte, ça a longtemps été le point de vue des éditeurs de jeux de rôle américains. Ou, si tu prends les vieux bouquins, l'illustration, elle sert strictement à ça, à couper les pavés de texte de règles pour les rendre un peu plus digestes.
Et alors, puis,
j'ai entendu un podcast récemment, je crois que c'est un des podcasts de Willem sur Ice Cream for Everyone, mais j'en suis pas sûr, où le mec, enfin, où il y a un auteur qui explique que lui, il veut pouvoir travailler en parallèle, et donc il prévoit sa pagination, il laisse des trous, il sait pas ce qu'il va y mettre, mais il sait que là il va avoir une illustration de tel format, ce qui lui permet de faire toute sa mise en page et en parallèle d'avoir son artiste qui fait ses illustrations. Et donc, il n'est pas obligé d'avoir les illustrations pour terminer sa montage et faire son projet. Et donc, j'avais trouvé ça assez intéressant. Mais je me souviens plus de la référence parce que j'écoute plein de podcasts en ce moment. Mais je crois que c'est chez Willem, hein, c'est sur Ice Cream for Everyone, je crois.
Eh ben écoute, quand Willem nous écoutera, puisque en général il le fait, quand il n'est pas là, il pourra nous donner la référence qu'on la mette dans le chat. Ok.
Bon, c'est un podcast en anglais par contre, hein. Je m'excuse pour les francophones pur jus.
Très bien.
Ben voilà, donc moi, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais le principe de l'amélioration de l'ergonomie du livre, en fait, par l'illustration, justement, la séparation des chapitres ou ce genre de choses, qui touche aussi à la mise en page en un sens, mais là, on dévie un peu, ça me paraît assez intéressant aussi comme principe, quoi.
Moi, j'ai un dernier point à ce sujet-là. J'ai l'impression que si on est dans un jeu qui est dans un cadre très connu, que ce soit, je sais pas, autant Star Wars que un univers contemporain classique, on a peut-être moins.
C'est phénoménal, Julien, que tu cites systématiquement ce à quoi je suis en train de penser.
Ah bah écoute.
Je sais pas comment tu fais.
C'est mes micros. C'est voilà.
C'est le chapeau.
C'est par le micro que tu utilises, je peux lire tes ondes cérébrales.
Ah ok.
Voilà. Je travaille pour le gouvernement. Hein, je dois vous le dire aujourd'hui. Ouais. Je contrôle la population. Bon, un peu plus sérieusement, donc, ce que je voulais dire, c'est que dans des jeux comme ça, on n'a pas besoin d'illustration la plupart du temps, alors que dans des jeux qui sont dans des contextes très très différents, on aurait plus besoin d'illustration pour se rendre compte. Je crois que c'est Sandra qui citait, lors du dernier podcast, son contact avec Shan Renaissance, qui, lorsqu'elle l'a testé en convention, je crois, ou en scénar de découverte, n'arrivait pas à entrer dans l'univers parce qu'il y avait trop d'informations, et qu'à partir du moment où elle a pu feuilleter le bouquin, bon, certes, il y a le texte qui lui a apporté beaucoup d'infos, mais il y a aussi l'illustration des différents peuples, des différentes races, etc., qui lui a permis de se faire une idée de ce monde-là. Donc je pense que c'est pareil pour Dark Sun, c'est pareil pour un autre univers de donjon qui est Eberron, qui est un univers un peu steampunk pour donjon. J'ai l'impression que plus on s'éloigne du commun, plus on a besoin de quelque chose pour pouvoir faire passer les concepts du jeu, les idées du jeu et l'ambiance du jeu à travers des illustrations. Donc pour répondre à la question, combien d'illustrations sont nécessaires ?
Si on reste sur Donjons et Dragons, tu vois que Ravenloft, c'est bien qu'il soit illustré, mais fondamentalement, t'en as pas besoin. Ouais. Je veux dire, Ravenloft, t'as un univers mental, Dracula, Frankenstein, loup-garou, etc. T'as pas forcément, c'est sympa qu'il y ait des illustrations, mais t'en as pas besoin. Par contre, effectivement, Dark Sun, sans illustration, je sais pas si j'aurais imaginé ce que j'imagine aujourd'hui, quoi.
Ok.
Après, je peux aussi ajouter que ça dépend aussi des personnalités des gens, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'attacheront peut-être plus au texte parce que ça leur parle plus comme support d'imaginaire. Et il y a des gens qui ont besoin des illustrations, enfin besoin ou envie, mais pour qui les illustrations sont des supports plus puissants ou plus aidants que du texte. Je peux citer comme ça Terre suspendue. J'ai pas joué au jeu, j'ai écouté que le podcast à ce sujet. Par contre, c'est vrai que l'univers graphique de Terre suspendue m'a assez fasciné. La qualité des illustrations, ses couleurs, tout dans les tons de sable, c'est pas du tout ce que j'aurais imaginé quand on me parle du jeu. Quand on me l'aurait présenté, c'est pas du tout ce que j'avais dans la tête. Et en même temps, ça me fait plaisir parce que ça me donne vraiment envie. Ça ressemble un peu à c'est un côté un peu Black Sad en plus féerique que j'aime beaucoup. Et en même temps, je sais pas si j'arriverai à faire coexister l'idée que j'ai du jeu quand on m'en parle et cette espèce d'univers graphique qu'on me présente.
Ouais, alors juste Terre suspendue, c'est un univers qui est décrit par son auteur comme étant un univers arcane punk dans lequel on joue des animaux anthropomorphes, je crois. Voilà, qui font des... je sais plus s'il y a que ça. Non, je crois qu'il n'y a pas que ça. Hein. Je sais
non,
plus.
Non, non, il y a une histoire. Enfin, c'est beaucoup plus. C'est beau, c'est très
Oui, non, mais je veux
complexe.
dire, dans ce qu'on peut jouer, je crois qu'il n'y a pas que des animaux. Je crois que tu peux jouer des animaux, mais qu'il y a pas, il y a aussi des races diverses, elfes, nains, etc. Si je me souviens bien, c'est Julien Guibert qui l'a produit à travers un financement participatif il y a quelque temps déjà. Il en parle bien dans le podcast de La Cellule. Si ça vous intéresse, allez l'écouter. Voilà. Et Blacksad, d'ailleurs, on peut signaler.
Ah mais c'est vrai qu'il fait un jeu de rôle, Blacksad, d'ailleurs.
Bah, il y a un jeu de rôle espagnol sur le sujet qui est en train d'être préparé pour une traduction française par la Loutre Rôliste. Donc si ça vous intéresse, guettez ça. Voilà. Ça, c'était la minute pub pour parler des projets des copains. Voilà. Ok. Autre chose à dire là-dessus ou est-ce qu'on passe à ce que Vivien voulait dire sur l'illustrateur?
Je pense qu'on peut passer à l'illustrateur. On n'en parle jamais assez.
Sachant qu'on n'a pas d'illustrateur avec nous, mais que il n'est pas exclu qu'on fasse un troisième podcast sur l'image en présence justement
Uniquement
de.
avec les illustrateurs.
Ouais,
Ouais,
ça
peut-être,
pourrait, je
ouais.
pense.
Ça pourrait être très intéressant, ouais, tout à fait.
Pas de raison, ils n'en ont pas eu jusque-là, donc.
Ouais.
Mais voilà, parce qu'on en revient à la même chose. Les univers graphiques sont tellement forts que finalement, tu associes des expériences de jeu et des jeux à des illustrations vraiment particulières et vraiment typées. Et autant il y a un certain nombre de noms d'auteurs de jeux qui sont connus, autant les noms des illustrateurs dans le jeu de rôle le sont largement moins, quoi, je trouve. Alors que sans doute ils ont aidé à poser l'univers autant au moins que les auteurs de jeux, tu
Je sais pas, je suis pas sûr d'être d'accord avec toi.
vois.
Tu prends Darkson. Tu connais le nom de
Ouais.
l'auteur du jeu?
C'est exactement ce que j'allais dire. Je suis pas d'accord avec cette idée que
Bah
justement l'illustrateur est
alors
très
l'auteur du jeu, oui, il s'appelle Gary Gygax, c'est lui qui a
Non,
écrit
non,
le.
l'auteur de l'univers, espèce de
Ah,
troll.
l'auteur de l'univers, d'accord.
Je
Ouais, bah
crois.
c'est peut-être le contre-exemple, hein.
Ouais, je suis pas sûr que ce soit un contre-exemple, justement.
Tu
Bref.
vois, parce qu'ils ont, enfin, quand tu regardes les magazines Dragon de l'époque, ils axent toute leur com sur les illustrations de Brom, les mecs.
Bah bien sûr.
Donc forcément, ils ont parlé que de Brom.
Bah bien
Donc
sûr.
qu'est-ce que tu retiens de Donjons et Dragons? Tu retiens Brom.
Pareil pour Ambre et Florence Magnin, pareil pour Les Chroniques des Féals et Nicolas Fructus, pareil pour un certain nombre de jeux, pareil pour Simbarum, là, actuellement, avec le. Alors, je n'ai pas le nom de l'auteur en tête, mais.
Tout à fait. Bah,
toute façon, c'est norvégien, c'est imprononçable.
Oui, voilà.
Oh.
Espèce de raciste. Alors,
Ouais,
Vivien.
ouais, c'est moi qui délire. Bon, ok.
Eh bien justement, moi c'est exactement donc du contraire de ce que Xavier dit parler que je voulais parler justement. En fait, fut un temps, ça aurait été un coup de gueule. Maintenant, j'ai mis beaucoup d'eau dans mon vin et j'avais vu notamment, comme il s'appelle, Bob Darko, parler de ça et c'était un sujet qui m'avait intéressé aussi. C'est l'idée que finalement, j'avais le sentiment que l'illustrateur était globalement mieux considéré que l'auteur. C'est-à-dire l'auteur, pas forcément dans le sens de l'auteur de son jeu indépendant, parce que là après il fait ce qu'il veut, donc il se met au milieu, il se met en avant s'il veut, mais dans l'auteur, on va dire, qui est souvent pluriel dans un jeu de rôle plus classique, où on trouve souvent des commandes, énormément de personnes qui, on va dire, pondent énormément de textes, et le sentiment aussi que l'illustrateur est souvent mieux considéré en quelque sorte financièrement que l'auteur, en fait, de jeu de rôle. Que celui qui pisse du signe en fait, qui est de la lettre à... j'en veux pour preuve notamment aussi par exemple que les nouvelles d'ambiance sont systématiquement dénigrées, là où les textes, là où les illustrations d'ambiance sont elles généralement saluées. Le fait aussi que les Kickstarter mettent systématiquement en avant la charte graphique, le côté matériel et jamais quasiment le texte. Ce genre de choses. Le fait aussi que souvent on met en avant l'école de l'illustrateur. Par exemple, Morgane parle toujours du fait que Marion a fait l'école des Gobelins. Et c'est quelque chose que j'ai revu chez pas mal d'illustrateurs, en fait, finalement, ce côté, on a fait une école, on a des fournitures, etc. Là où il n'y a pas d'école d'écriture, en fait. L'écrivain, que j'ai l'impression, est souvent considéré comme un petit peu, ça pourrait être un petit peu n'importe qui, quoi, en un sens. On aime le jeu, mais finalement, on pourrait mettre n'importe qui derrière au remplissage. Il y a des gens plus ou moins doués, évidemment, mais ça reste, on va dire, du travail d'artisan plus que du travail d'artiste, on va dire, le texte en soi du jeu de rôle. Là où l'illustration, il me semble, se voit largement reconnue un caractère artistique.
Oui.
Absolument.
D'ailleurs, le texte de jeu de rôle est souvent ingrat parce que il est essentiellement technique, à part les nouvelles qui sont, elles, critiquées pour leur inutilité. Voilà. Donc c'était un peu ça qui m'inspirait, même si maintenant j'aurais tendance à aussi voir en sorte le fait que l'illustration, c'est quand même quelque chose qui, malgré tout, attire énormément, finalement, le lecteur potentiel et donc a une importance cruciale, quoi.
Du coup, par rapport à ce que tu viens de dire, Vivien, je pense que ça attire pas les lecteurs parce qu'apparemment le texte.
Touché.
Non, bah non, mais voilà, est-ce que je réagis un petit peu, mais non. Enfin,
Bon, ça
oui, il y a
revient.
des mauvais textes. Il y a des mauvais textes de jeux de rôle, hein, ça, je dis pas, mais enfin, il y a aussi énormément de jeux de rôle où il y a des vrais gens qui ont un talent d'écriture derrière. C'est un petit peu réducteur de. Voilà. Bref.
Pourtant, ça revient bien à ce que tu disais dans d'autres podcasts sur le fait que justement, beaucoup de jeux, et notamment ceux qui avaient besoin des notes d'intention,
N'est-ce pas?
étaient des jeux qui n'étaient pas bien écrits, justement.
Ah, mais c'est la loi de Sturgeon, de toute façon, hein. Dans 90% de quelque chose, on trouve de la merde. Malheureusement, ça se vérifie aussi en jeu
Bon, bref, on va pas débattre là-dessus.
de rôle.
Ouais, mais alors ça, moi, mon point de vue, il a un peu évolué de ce point de sur ces aspects-là. C'est-à-dire qu'il y a tout un temps où je pensais effectivement que l'illustration de jeu de rôle, globalement, elle servait à faire vendre et que on en avait un peu rien à foutre, que c'était bon, qu'il y en avait des très très belles, que les illustrateurs avaient du talent, et ça, je suis pas du tout en train de le nier, mais que ça servait. Finalement, on était bien servi par un jeu qui n'aurait pas eu ces illustrations-là. Mais si on considère que l'illustration est un outil pour influencer la façon dont le jeu va produire des parties derrière, je suis plus bien sûr de penser ça. Du coup, ça impliquerait que c'est dans le travail éditorial, du coup, là, et pas seulement de publication, que l'illustration va avoir sa place réellement, c'est-à-dire, est-ce que tu choisis des illustrations parce qu'elles rendent bien, parce qu'elles aèrent ton texte, parce qu'elles te mettent une ambiance sympa et parce que, voilà, t'aimes bien le travail de cet illustrateur, ou est-ce que tu vas vraiment tailler tes illustrations en fonction de ce que tu veux produire comme effet, quoi?
Je pense que tu trouves les deux.
Ah bah bien sûr que tu trouves les deux.
Voilà. Je pense que tu. Après, c'est à la fois des postures d'auteur, c'est aussi des postures d'illustrateur, c'est des postures d'éditeur. Tous ces gens-là qui vont donner leur avis sur le livre, le jeu, sa qualité, sa portée, son côté marketing et tout. Voilà. Ça y est,
Ouais,
c'est moi
ouais.
qui casse l'ambiance.
Non, 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 non,
Non, bah
tu
oui,
génères
bah
des
oui, mais qu'est-ce
réflexions,
que tu veux
encore une
dire de
fois.
plus à personne?
Ouais. Donc les illustrateurs devraient être associés au travail de création du jeu, ou est-ce que ce sont des prestataires qu'on va payer pour habiller le produit qu'on veut faire?
Je pense que dans 90, enfin, je dis pas ça contre les illustrateurs,
Non, non, mais
loin de
ça
là.
n'enlève rien à
Mais
leur travail, hein.
non, non, je pense que dans la plupart des cas, on attend d'eux effectivement qu'ils obéissent à une commande, c'est-à-dire qu'on les choisit pour un style, pour une qualité de dessin, c'est pas évident, pour une personnalité, mais il y a une charte graphique qui est pensée à la base pour être vendue. Je pense que dans certains cas, il y a une collaboration qui est plus importante. Et moi, évidemment, hein, en bonne indépendante, shadowiste et tralala, je suis quand même très pour que l'illustrateur soit complètement associé au projet. C'est presque une scope, si tu veux. C'est-à-dire que le fait que l'illustrateur puisse influencer l'auteur en amont de son travail et pas juste pondre des images pour coller à texte, je pense que c'est super important et c'est super intéressant d'ailleurs, je pense, pour les auteurs que d'avoir des illustrateurs qui sont force de proposition et qui sont capables de te dire, écoute, moi j'ai ça dans la tête, je pense que ça pourrait être intéressant qu'on travaille là-dessus et qui sont pas là uniquement pour te donner un avis sur ta charte graphique de couverture ou la résolution de tes images ou ta mise en page et qui sont capables aussi de donner leur souffle à l'œuvre. Voilà. Et
Non,
que
mais enfin,
leur nom soit écrit sur la couverture au même titre que celui de l'auteur, même place, même taille, enfin voilà. Parce que je suis d'accord avec Vivien, le travail des illustrateurs, parce qu'il est plus facilement accessible, c'est-à-dire qu'une illustration, en 10 secondes ou 15 secondes, ça y est, t'en as fait le tour, tu l'as vu. Donc c'est pour ça, je pense qu'on communique dessus, parce que c'est impressionnant et facile. Alors que si tu communiques sur des morceaux de texte, c'est long, il faut que les gens les lisent. Et ça, sur Facebook, ça colle pas. On n'a pas des médiums de transmission qui permettent comme ça aux gens de lire du texte agréablement sans se niquer les yeux. Non, mais c'est vrai. Si on prend les illustrations, c'est aussi parce que c'est comme ça que ça marche. Hein, le marketing l'a compris depuis longtemps. C'est pas. Voilà.
Eugénie nous disait sur le chat que la culture d'aujourd'hui était très visuelle, qu'on était plus nourri par les films et les séries et que malheureusement, les livres et la lecture étaient un peu en perte de ce point de vue-là. Quoi. Et que ça pouvait effectivement expliquer ça. Ouais.
Est-ce qu'on ne retrouve pas en miniature ce qui fait déjà le problème du jeu de rôle ? C'est-à-dire que c'est déjà en soi un loisir peu pratiqué peut-être parce qu'il nécessite un gros effort de lecture. Et du coup, est-ce que finalement dans le jeu de rôle, on ne reproduit pas ça aussi un petit peu ? C'est-à-dire que l'illustration prime malgré tout, encore une fois ?
Je ne sais pas. C'est pas. D'ailleurs, ça me fait penser que dans mon coup de gueule, j'ai carrément oublié d'aller au bout de ma réflexion. Donc oui, je suis d'accord avec toi. Les illustrateurs sont très mis en avant dans la communication du jeu. Cela dit, je trouve que même si leur univers fait partie quand même intégrante de beaucoup d'expériences de jeu, je les trouve quand même assez mis de côté. C'est-à-dire que ils sont présentés quand ils réalisent une œuvre comme effectivement des gens de talent, mais je trouve que le marché les considère encore beaucoup dans le phénomène de création comme des prestataires. À la différence de l'auteur qui va porter une vision, porter un univers. Alors oui, l'écriture est moins bien vue parce que moins accessible. Je trouve que quand même dans l'imaginaire, l'auteur de jeu a voilà, quelque chose de plus près.
Pour citer une anecdote de ce que j'ai pu constater en salon, en convention jeu de rôle, etc., quand j'étais sur le stand des Chroniques d'Altaride, donc le magazine qui, pour l'instant, est endormi, et qui était partagé avec le stand de Fils des Siècles, donc le jeu que Benoît Chérel est en train de produire, lorsqu'il avait avec lui des illustrateurs avec lesquels il travaille, on peut citer Agénor Lerier ou Clooms, qui sont deux illustrateurs qui ont beaucoup bossé sur le jeu, et les deux que j'ai vus, en tout cas, en salon, eh bien, le fait de pouvoir faire dédicacer le kit kit de démarrage du jeu de démonstration par ces illustrateurs avec un dessin inclus dans la dédicace, bah, ça jouait énormément sur l'intention des gens de prendre le kit hein, et la version papier, qui était au passage disponible gratuitement en version PDF. Donc l'argument de vente par l'illustrateur, il est vraiment vraiment puissant, quoi.
Ah, c'est malgré tout c'est quand même au cœur de l'affaire. Hein. On parle beaucoup de qu'on soit indépendant ou éditeur ou ce qu'on veut. Il y a une démarche de vente qui malgré tout implique aussi une démarche de communication et l'illustration joue un rôle majeur là-dedans, quoi.
Mais moi je suis d'accord avec Morgane. Enfin, tu vois qui est l'illustrateur d'Apocalypse World ? Quelqu'un le sait ? Personne. Tu vois, c'est-à-dire, ce que tu disais la dernière fois, enfin tout à l'heure, Julien, sur ouais, mais regarde tel jeu. Moi, je suis sûr que je peux te citer beaucoup plus de jeux dont on connaît le game designer et pas l'illustrateur que l'inverse.
Eh ben, je serais curieux que tu le fasses parce que j'ai idée que c'est vraiment lié au jeu de rôle indépendant, ça, et à la prévalence de l'auteur dans ce jeu de rôle-là.
Ah ouais, tu crois ?
Enfin, pas la prévalence, pardon, le comment on dit ?
Je sais pas.
Tiens, la prédominance, voilà.
Prédominance.
La prédominance, la mise en avant de
l'auteur. Le trollage.
Le trollage, oui. Le trollage de l'auteur. Illustrateur Vincent Baker. Voilà. Oui, illustration ça, de couverture Ivan Blisnetsov. Merci le Grog.
Oui, ben voilà. Après effectivement, hein, ça, on peut saluer le Grog qui fait un travail remarquable pour remettre un petit peu tout le monde à
égalité.
Voilà. Ouais. Bon, on peut passer au coup de gueule ou on
Ouais, on va y passer
non,
parce
attends,
qu'on
non, Morgane ah, non. voulait dire un truc.
Ah oui, c'est vrai. Petit tonnerre, tu avais un sujet supplémentaire.
Ah, heureusement que je suis là. Hein.
Merci. Ben non, il a pu
rien. Dire.
Ah, le voilà.
Non, mais ça va être un petit peu ce serait un petit peu long et puis je pense que c'est pas très,
eh
ben, très utile.
Tu peux peut-être nous le mentionner, comme ça nous permettra d'avoir des pistes de réflexion.
Oui, bah, notamment à travers le jeu de rôle, ça a débordé sur la littérature maintenant. Il y a de plus en plus d'illustrateurs pour arrondir leur fin de mois qui en fait font des templates ou des couvertures préfaites. Ça a démarré dans le jeu de rôle pour des livres de jeu en fait, et c'est en train de déborder sur la littérature. On peut trouver des sites où des auteurs mettent en fait ce qu'ils appellent des pre-made covers, c'est-à-dire des couvertures toutes faites en fait.
Des illustrateurs, tu veux dire?
Ouais, il suffit de payer une certaine somme qui est en général beaucoup plus intéressante qu'une commande, on va dire, personnelle, enfin une commande. Mais
oui, une sur mesure.
Mais voilà, oui, ça coûte beaucoup moins cher donc que du sur mesure. Ça permet aux illustrateurs, bah voilà, de se faire de l'argent assez facilement, parce qu'une fois que la couverture elle est payée, il leur suffit de changer, ouais, voilà, exactement, de changer juste le titre et le nom de l'auteur et puis roule la poule. Alors il y en a des très moches, il y en a des beaucoup mieux, hein, parce que là on en voit quand même quelques-unes qui sont assez horribles. Mais voilà, et ça a démarré dans le jeu de rôle, hein, d'ailleurs. C'était des illustrateurs qui proposaient des templates pour des livres de jeux, et ça s'est un petit peu c'est passé du coup côté littérature. Voilà.
D'accord, c'est intéressant ça. En fait, j'imagine presque choisir pour un auteur comme moi, un peu stressé par l'aspect on va dire esthétique, choisir en fait la couverture et créer un jeu à partir de ça. Ça pourrait être marrant.
C'est trop... Après la boîte à JDR, la boîte à couverture.
Eh ben ça marche. Attends, j'en ai vu un tout à l'heure qui était pas mal. Ça s'appelait Cyber Nun ou un truc comme ça.
Moi, ça me rend fondamentalement triste, hein, ce que tu dis, Morgan, quand même. Ça me rend fondamentalement triste parce que, dans le fond, ça vient aussi du fait que les illustrateurs sont quand même des grands précaires. Et que, du coup, voilà, ils sont obligés d'arrondir leur fin de mois en faisant ça, alors que je pense que ça les éclaterait beaucoup plus de travailler un peu sur des projets. Enfin, après, je sais pas, hein, j'imagine que c'est comme partout. Ça me fait aussi penser, enfin, à ces gens qui travaillent dans le web design ou des trucs comme ça, dont la majorité du boulot consiste à changer la couleur des logos ou à gérer la taille des images sur des affiches pour la fonction publique absolument immonde. Enfin, voilà, on en a tous, hein, des amis comme ça qui te disent « Ah bah aujourd'hui, j'ai designé 3 boîtes de dentifrice. » Le client, finalement, après 45 essais, est revenu à laisser un parce que c'est celui qu'il préférait, quoi.
Ouais. Ah, voilà. Non, mais je suis entièrement d'accord avec ça.
Bon, après, je vois qu'il y a Jemris qui fait une remarque intéressante sur le fait qu'il n'y a peut-être pas du coup d'exclusivité sur les illustrations et que du coup on peut se retrouver avec plusieurs livres avec la même illustration et des
peut-être ça, le même ça dépend titre, du, mais... il faut non ça dépend ah. il faut voir les contrats qui sont proposés avec, hein, mais
ah bah là par exemple
je pense qu'effectivement c'est une dérive qui peut arriver, oui, où finalement tu te retrouves à avoir la même template que le voisin d'à côté et au final
ça pourrait être drôle en fait, mais
oui ça pourrait être drôle et en même temps je trouve que c'est très triste parce que c'est une uniformisation, enfin c'est comme ces sites web où tu finis par reconnaître les mêmes nanas qui sont aussi du même banque d'images gratos, quoi.
Ah bah bien sûr, oui.
Voilà, non mais les mêmes voix off dans les pubs, c'est pareil.
Alors, au moins, Romaric pourra vraiment dire je joue pas au même jeu si on a tous un jeu avec la même couverture, le même truc, mais en fait c'est pas du tout le même.
Faut faire ce que dit Julien. Faut prendre une couverture et inventer des jeux à partir de la couverture. Le nouveau Game Chef, mal, les enfants.
Mais c'est pas mal, ouais, ça donne une bonne idée.
Moi, je pense surtout qu'il faut envisager maintenant d'avoir plusieurs illustrations de couverture. Comme ça permet d'avoir un effet collector.
Ah bah ça, c'est les comics.
Tu sais que j'y ai pensé. Et
ça se trouve de vendre 2 ou 3 fois le bouquin.
Ouais, tu sais que j'y ai pensé. Vraiment, je suis une vendue au capitaliste parce que quand j'envisageais de faire un jeu de rôle autour des saisons et des haïkus, je me disais je pourrais faire une couverture par saison. Comme ça, les gens achètent la saison. Et je me suis dit, non, franchement, c'est abusé, quoi.
Il y a une grande tradition de ça.
Déjà que je me mets en rupture de stock pour faire monter la spéculation sur le bon coin. Alors,
D'ailleurs, je vends un chrysopée.
Non.
Sous manteau.
M'en fous, j'ai la version PDF.
Je sais plus qui me disait que j'aurais dû les numéroter. Je trouvais ça abominable.
Bien. On va passer maintenant au coup de cœur et au coup de. Oh là là, j'ai du mal. Au coup de cœur. Voilà, au coup de cœur. Allez hop. Coup de gueule et coup de cœur. Puisque ça fait quand même un long moment qu'on y est, que je ne veux pas vous mobiliser plus longtemps et que ben, on a quand même des auditeurs qui nous font la gentillesse de nous écouter depuis ben, plus de deux heures. Hein. Oh là là. Allez.
Félicitations, vous êtes arrivés jusque-là.
C'est maintenant qu'on vous donne le code secret pour avoir accès au. Partie secrète du site dans lesquelles vous trouverez tous les ragots de... Non, bref.
Vivien
Vivien, coup de cœur, coup de gueule.
En revanche, il est tout à fait possible de parier sur ce que Sandra a bu hier soir pour ne pas être en état d'être avec nous. Il suffit de remplir un petit tableur Excel.
Vous saurez ça, c'est ton domaine.
Oui, la boisson, c'est Morgane. Vous voyez avec lui. Parce que nous, évidemment, nous autres, nous n'avons rien bu ce week-end. Bref. Donc.
Vivien.
Ouais, je vous entends. Coup de cœur. Eh ben, écoute. Allez, je vais faire un coup de cœur sur un petit jeu indépendant qui doit en être à son quatrième volet, qui est particulièrement intéressant sur la façon dont il traite des scénarios. Vous en avez peut-être entendu parler, ça s'appelle Sombre, je crois, de Joan Cipion. Non, mais en fait, j'avoue l'avoir lu très récemment, et c'est pas forcément ma cam. Je serais pas contre en faire une partie comme ça à l'occasion. Pourquoi pas, surtout que les parties ont l'air assez courtes, mais je trouve ça très très intéressant en termes justement de conception, la façon, enfin c'est vraiment du jeu pour animateur, pour animer ces parties le mieux possible, avec et c'est vraiment quelque chose d'assez unique là-dessus, et je suis assez surpris que finalement d'autres personnes, sans aller jusqu'aux extrêmes où se livre l'auteur, ne s'en inspire pas finalement dans la façon de rédiger un scénario, ou même dans le côté jeu très très court, 20 minutes la partie, etc. quoi. Je trouve ça très intéressant comme concept. Bien évidemment pas appliqué à tout, c'est pas le propos quoi. C'est voilà.
Ok. Est-ce que tu as un coup de gueule ?
Mon coup de gueule. Alors j'ai un demi coup de gueule. J'avoue, je suis encore un peu peiné en fait par un Kickstarter comme celui d'Ecrim par exemple, où l'offre de base qui est quand même à 50€ ne propose pas tous les suppléments en PDF.
Ah ouais, c'est
ouais. Et je trouve que dépenser 50€ pour moi, ce serait déjà un geste particulièrement important de ma part pour acheter le jeu. Je dis pas que ça les vaut pas hein, du tout, mais alors après. Je dis demi coup de gueule parce que malgré tout, les suppléments seront mis en vente ensuite en boutique. C'est ce que je leur avais demandé. Donc ça veut dire que la personne qui n'achète pas tout de suite la totalité n'est pas quand même coupée d'une partie du matériel. Mais malgré tout, je trouve ça un peu dommage le fait qu'il faille payer nécessairement 120 ou 150€ pour vraiment pouvoir bénéficier des mêmes choses. Et ça se voit d'ailleurs dans les Kickstarters qui me font halluciner. C'est-à-dire qu'il y a finalement assez peu de contributeurs et qui sont tous sur les gros gros trucs extrêmement chers justement, blindés de matériel, de boîtes en bois ou de ce que vous voulez. Et voilà. Donc, c'était mon demi coup de gueule en fait, parce que je vais l'air assez intéressant malgré, au-delà de ça quoi, je trouve.
Ok. Xavier, pour rester dans le thème.
Ouais, du coup je vais commencer par mon coup de gueule évidemment. Mon coup de gueule, c'est le financement participatif de la traduction de L'Œil Noir par Black Book Edition. Et alors c'est pareil quoi. Je veux dire la boîte de base, elle coûte 60 boules. Voilà. Et si tu veux rajouter l'écran et trois posters, tu montes à 100.
J'espère que c'est des posters en format paysage 4 mètres sur 10, parce que dis donc
imprimé sur peau de gobelin.
Le noir, au-delà de la nostalgie, enfin voilà, si vous êtes nostalgique, trouvez ça en PDF à pas cher. Hein,
mais attends, tu sais que sur cette histoire, j'ai dû lire quelqu'un qui sortait un truc genre il y en a pour toutes les bourses à partir de 50€ jusqu'à 150.
On n'a pas les mêmes bourses.
Voilà, j'ai pas la même bourse que vous.
Je trouve ça juste agressant. Et alors, la boîte maître de jeu, là, à 40€, où tu as un pauvre écran et 8 posters, je trouve ça juste ahurissant, quoi.
Comment tu te sers des posters en partie?
J'en sais rien. En tout cas, pour moi, un peu. Passez votre chemin sur ce Kickstarter, quoi. Enfin,
C'est
voilà,
dommage parce
ça
que
ne vaut sans doute pas la
côté
peine.
mémoire, c'est assez séduisant dans le côté un peu à l'ancienne, quoi.
Ouais, sauf que
Oui, au-delà de la nostalgie, mais est-ce que la nostalgie, ça vaut ce prix-là, tu vois?
apparemment, les règles de cette édition-là sont une espèce de catastrophe. Hein. Bon, bref.
Si tu veux mon avis, Xavier, moi je trouve que la nostalgie dans notre société coûte de plus en plus cher.
Ah bah, en tout cas, c'est un constat, hein. Ça, c'est pas de problème, quoi.
C'est
Mais enfin
logique.
voilà, moi, sur le site aventurie.com, on peut avoir des petites parties un peu gratuites traduites ce système-là. Je suis allé jeter un coup d'œil. Il n'y a pas de grosse révolution par rapport aux premières éditions, aux éditions de Gallimard ou autres. Et bon, c'était sympa comme petit jeu, mais c'était pas le jeu du siècle, hein. Il y
Ouais.
avait quelques scénars sympas, et donc le prix avec lequel nous assomme Black Book Edition, et surtout nous faire croire que aujourd'hui un jeu de rôle un peu professionnel, ça coûte au minimum 60 €, ça me navre, quoi. Après leur délire sur Donjons et Dragons 5, l'œil noir, franchement, ça fait baisser dans mon estime ces éditeurs-là, quoi. Enfin bon, bref, ça c'était mon coup de gueule, donc, voilà, hein, qui résonne un peu d'ailleurs avec celui de Vivien, effectivement. Mais passons à des choses plus joyeuses, passons à mon coup
Ah.
de cœur. Et mon coup de cœur, c'est un jeu qui se prépare, qui est écrit exclusivement par des femmes, qui est propulsé par l'Apocalypse et qui s'appelle en anglais The Bluebird's Bride, c'est-à-dire en français l'épouse de Barbe Bleue.
Oui, il a l'air
Et où
cool,
se
celui-là.
joue l'épouse de Barbe Bleue. Il y a notamment un podcast du célèbre podcast américain One Shot qui donne follement envie d'y jouer, et donc quand ils feront un Kickstarter, pour le coup j'aurais très envie de backer, parce que enfin les filles m'ont vraiment fait rêver sur ce délire-là, quoi.
Et je
Voilà, allez voir
crois,
Bluebird's Bride.
je vérifie, je crois qu'il y a même plusieurs podcasts qui ont fait des parties dessus. Je vais vérifier, mais il me semble que le Gencast, oui c'est ça, le Gencast en a fait aussi. Donc on a au moins deux versions du jeu, une version par One Shot et ses comédiens d'impro, avec la version, alors je l'ai pas écouté encore, mais qui en général donne une version un peu humoristique au jeu. Alors là, je sais pas si c'est ce qu'ils ont fait ou pas.
Pas spécialement.
Non?
Enfin, non, c'est quand même un peu, c'est quand même un peu sale, hein, comme jeu de
D'accord.
rôle. Attention.
Et de l'autre côté, on a effectivement le Gencast, donc le grand podcast du jeu de rôle indépendant américain qui a fait aussi un truc dessus. Ok, merci.
Voilà. Mais en tout cas, ça me fait vraiment envie. Voilà. Ce jeu-là, il me fait fantastique.
Ok, alors Morgane, et ensuite Petit Tonnerre.
D'accord. Alors, je vais. Bon, vous avez. Tout le monde maintenant commence à être habitué à mes sorties. Donc, on va commencer par le coup de gueule. Le coup de gueule, c'est évidemment le game design de la société qui t'oblige à payer 13,4% d'impôts sur ta minuscule marge de 2 euros par un bouquin. Voilà, mais bon, reportez-vous au début du podcast pour en savoir plus sur le sujet. Et mon coup de cœur, c'est le discours de Frédéric Lordon à la Bourse du Travail pendant Nuit debout, qui a circulé sur Facebook, voilà, qui je pense parlera aux gauchistes nanars qui nous écoutent, peut-être même à d'autres. Enfin, je le trouve intéressant. Et du coup, je terminerai avec une petite note d'humour. On m'a fait découvrir ce soir un sampler de Finkielkraut.
Oh mon
Je
Dieu.
pense que tous les gens qui aiment bien Finkielkraut ou qui ne l'aiment pas d'ailleurs s'amuseront énormément avec ce sampler. Voilà. Donc, amusez-vous. Passez une bonne nuit. Amusez-vous. Nia, 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 nia,
Très bon. Je crois que Lordon disait, nous ne sommes pas là pour apporter la paix.
oui, il disait, nous ne sommes pas là pour apporter la paix. Et il explique aussi pourquoi c'est pas si inintéressant de ne rien revendiquer. Voilà,
Ok. Très très fort.
ça doit durer 12 minutes. C'est assez prenant comme discours,
Ouais,
c'est
c'est fort.
intéressant, ça soulève des points importants et je pense que ça donne un contre-pied intéressant au traitement médiatique de Nuit debout. J'avoue ne pas y être puisque je suis parisienne, mais voilà, entre ceux qui vous disent que c'est le chaos absolu et ceux qui vous disent que c'est le paradis sur terre avec des tomates qui poussent sous les pavés, je pense que Lordon donne là quelque chose de nuancé et de plus, ouais, de plus, j'allais dire de plus violent, mais dans le bon sens du terme.
Ok, donc nos auditeurs se feront leur opinion sur le sujet, mais c'est vrai que Lordon est un. Faut lui reconnaître au minimum ça, quoi qu'on pense de ce qu'il dit. C'est-à-dire que c'est un orateur assez génial. En tout cas, c'est mon opinion et je la partage et c'est très bien. Petit tonnerre, et toi?
Je sais pas, on a entendu le coup de cœur de Morgane ou
Il me
bah,
semble.
il me semble, hein, puisque c'était leur nom.
Alors, ça
On vient de
commence
le terminer là.
commencer en coup de gueule et
Leur
ça
don,
finit
c'était
en
pas
coup de
son coup de
cœur, ok.
gueule. C'était son coup de cœur.
Oui, on se méprend pas.
Non, non,
Voilà,
non, non, mais
complètement.
je sais pas, j'ai dû, j'attendais un espèce de... Bon, peu importe. Je commence par quoi? Coup de cœur ou coup de gueule? Allez, coup de cœur.
Ce qui te fait plaisir.
J'ai découvert récemment un très très bon groupe de... comment dire? Métal atmosphérique, post-rock. Ils sont qualifiés de doom metal, mais enfin, c'est pas vraiment doom, qui s'appelle Kawan. C'est un groupe russe, mais je suis à peu près sûr de bien le prononcer parce que c'est du leur nom est en finnois et d'ailleurs ils chantent en finnois avec un accent russe, ce qui est drôle. Mais enfin, on s'en fout un peu. Et voilà, c'est un groupe que j'ai découvert vraiment récemment, que certains de mes contacts connaissaient apparemment, mais n'ont pas jugé utile de partager. Et voilà, je vous invite tous à écouter parce que c'est vraiment très 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 bon. Et coup de gueule multiple.
Oh,
Oh là
Coup de
là.
gueule,
En
ouais,
rafale.
attention, coup de gueule, mais alors quadruple, quintuple, sextuple, heptuple, enfin tout ce qu'on veut. Pour autour de Jack McDavid, alors qui est un de mes auteurs, alors pas contre Jack McDavid, qui est un de mes auteurs de science-fiction préférés et vénérés, et c'est un petit peu mon dieu, et qui est un excellent auteur de Space Opera, mais tout ce qui touche à Jack McDavid, en fait, il a été en France, il a été mal traduit, globalement, dénigré. L'Atalante a quand même fait un très bon boulot, et heureusement, et je les en félicite. Mais les éditions Télémaque, et ensuite, il a été repris en poche, je sais plus par qui d'ailleurs, avec une traduction qui est juste abominable, qui est mauvaise de chez mauvaise, où ils traduisent des voitures volantes par des hydroglisseurs, enfin c'est n'importe quoi, et avec tout le
Ah,
bordel que
c'est
ça
beau.
implique. Ouais, l'hydroglisseur atterrissait de...
T'es tellement énervé qu'on
Donc
t'a
voilà,
perdu
et
là?
en plus et comment Et voilà, en plus, il est extrêmement dénigré, alors qu'il vend énormément et il est encensé par les critiques et lecteurs comme critiques littéraires à juste titre, sauf en France. Voilà. Les critiques qui me viennent à l'esprit, c'est une qui m'avait bien énervé dans Bifrost, d'un type qui apparemment n'a pas compris de quoi il était question pour écrire ça. Mais enfin, Bifrost, ils sont toujours pour moi un peu à côté de la plaque niveau space opéra. Et voilà. Bref, ça m'énerve. Et lisez Jack McDavid, c'est un ordre.
Oui, chef.
Oula.
Ok. Eh ben, à mon tour. Coup de cœur, coup de cœur. Alors, deux coups de cœur. Je vais pas faire de coup de gueule. Vous en avez déjà bien assez fait. De toute façon, je ne ferai que rajouter des couches sur le côté politique. Donc, c'est pas utile. Deux coups de cœur. Premier coup de cœur. Ce week-end, j'ai été à un grand tournoi de slam national qui s'appelle le Slam So What. J'y ai rencontré plusieurs podcasteurs rôlistes qui se reconnaîtront que je salue bien bas. Et c'était absolument génial. C'était une liberté de parole à travers les textes des poètes qui s'y produisaient, qui était assez hallucinante et qui nous permet de voir ce qui anime un petit peu la créativité de ces gens à l'heure actuelle. Et il y a eu effectivement un certain nombre de textes en rapport avec la situation politique actuelle. Et donc, c'était très, très intéressant, très beau aussi par moments, très intense. Donc, ça, c'est le premier coup de cœur. Deuxième coup de cœur qui n'a lui non plus rien à voir avec le jeu de rôle. Je crois que je l'ai déjà mentionné ici, mais je veux le refaire. Pour une chaîne sur YouTube que je suis régulièrement, qui s'appelle la chaîne du Cargo, qui propose des sessions acoustiques de plein, 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 plein d'artistes qui rencontrent en France et à l'étranger. Si vous cherchez plutôt dans les tendances folk, mais pas que, en acoustique, de la musique de qualité, allez écouter le Cargo. Ils ont aussi un blog avec des chroniques écrites qui sont parfois elles aussi intéressantes, mais rien que pour la musique, allez voir ça, voilà.
Okay. C'est un truc du genre cargo de nuit.
Non. Je sais pas. Peut-être qu'ils ont eu Axel Bauer dans leur session. J'ai pas vérifié, je t'avoue. Faudrait aller voir. Mais il y a des trucs assez formidables hein, dans ce qu'ils ont fait. Je crois qu'il y a presque 800 sessions. Donc voilà, il y a vraiment de quoi fouiller si ça vous intéresse. Bien. Ok, bah, je pense qu'on va boucler. J'ai un petit...
Merci Cognac G.
Merci Cognac G.
Merci aux gens du chat.
Voilà.
Oui, merci aux gens du chat. C'était très intéressant ce soir.
Ouais, et on va vous laisser avec le petit SOSMJ. Donc, je repasse. Alors, si vous parlez en même temps, ça va faire de l'écho. Donc, il ne faut pas parler en même temps. Mais comme ça,
il
tout
faut
le monde peut
le micro,
l'écouter. Voilà. Ok, bah, écoutez, à bientôt tout le monde.
À bientôt, merci pour tout.
Ciao.
Bye.
Bonsoir, peuple rôliste. Il est tard, c'est la nuit, c'est SOSMJ. Ce soir, nous avons Raoul avec nous. Raoul est un MJ qui a une question brûlante à nous poser. Nous t'écoutons, Raoul.
Salut, c'est Raoul, j'ai un vrai problème. Pas comme les autres crétins qu'appellent. Mes joueurs ont kidnappé mon chat, monsieur Bigglesworth, et ils menacent de l'habiller en caniche et de mettre les photos sur Facebook.
Raoul, dis-moi, s'ils menacent monsieur Bigglesworth, c'est qu'ils attendent quelque chose de ta part, non ?
On s'en fout de ça. Je céderai pas à leurs arguments. C'est moi le MJ, bordel. Faut juste une combine pour les blouser. Un truc genre illusionnisme à l'ancienne, une technique gigaxienne, en fait.
Je ne suis pas certain d'avoir une solution pour toi si je ne comprends pas le problème. Qu'est-ce qu'ils veulent exactement, Raoul ?
Ça a commencé bêtement. On jouait dans le désert, alors j'ai supprimé toutes les boissons de la table et j'ai monté le chauffage. Juste pour l'ambiance, tu vois, pour l'immersion. Je leur ai dit qu'ils pourraient boire quand ils auraient trouvé l'oasis. Et là, j'ai vu qu'ils commençaient à faire un peu la gueule. En plus, j'avais même mis du sable sur la table et soi-disant que ça pourrissait leur jet de dés. Franchement, ils comprennent rien, ces cons. C'est pour leur bien que je me casse la tête, moi.
Continue, Raoul. Je sens que ça vient.
Après, comme ils sont tombés sur une tribu locale, j'ai sorti la bouffe, pour les récompenser. Mais comme faut rester dans le temps, j'avais préparé une bouillie avec des yeux de poisson dedans. Un peu façon Indiana Jones et le Temple Maudit. Mais ils ont pas aimé. Y a même Ulrich qui est parti vomir dans les chiottes.
Tu ne crois pas que tu vas un peu loin, là, Raoul ?
Ouais, mais je les avais prévenus. Moi, je mets le paquet sur l'ambiance. Dans mes scénars, c'est immersion à fond. Mais bon, ça s'était arrêté là... C'est même pas ça qui leur va pas. Là, on a terminé la partie, ils ont réussi, ils sont sortis du désert, alors j'ai sorti à boire, et comme la Dame des Sables les a recueillis, j'ai sorti les loukoums de Turquie, elle était à la menthe. Et c'est con, alors que je fixais le rendez-vous pour la semaine suivante, ils ont kidnappé mon chat.
Je ne comprends pas. Il me semble que tu avais commencé à te rattraper. Ils avaient une revendication, peut-être.
Bah ouais, ils voulaient des XP. Des putains d'XP, bordel. Alors que franchement, on s'en fout, quoi. L'important, c'est l'histoire qui vit dans la partie, non ? Des ingrats, des foutus ingrats. Jamais je leur filerai les XP. De toute façon, ils sont pas prêts à gérer des persos plus puissants, et en plus, si je leur file les moyens, ils vont casser mes scénars. Et qu'est-ce que je fais de mon sable, moi, alors ?
Raoul, tu as raison. Ne cède pas aux pressions et ne t'inquiète pas. Je t'envoie le grand frère du jeu de rôle pour négocier pour ton chat. Il sait y faire. Tu bouges pas, hein ? Tu ne fais pas de conneries. Peut-être que tu peux leur enfiler un ou deux pour gagner du temps.
Jamais ! Plutôt crever !
Chers auditeurs, nous vous tiendrons au courant de la résolution de cette affaire. Et d'ici là, répétez après moi, je ne connaîtrai pas l'XP, car l'XP tue l'esprit. L'XP est la petite mort qui conduit à l'oblitération totale. Je ne dépenserai pas mes XP, je leur permettrai de rester sur moi, à l'intérieur de moi. Et lorsqu'ils seront rangés, je tournerai mon œil intérieur sur leur chemin. Et là où ils seront stockés, il n'y aura plus rien. Rien que moi. À bientôt pour un nouveau SOSMJ.